l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Voilà.
Reconquérons.
Non, qu'est-ce que c'était déjà, oui, la phrase célèbre. Je me souviens.
Si c'est attaquons,
voilà. Comme la lune. Oui, c'est pas reconquérons comme la lune, ça va pas. Je rappelle aux auditeurs sympathiques et aux autres d'ailleurs que je suis candidat à l'élection présidentielle quand même. Alors j'ai lancé un appel il y a 15 jours, j'ai dit envoyer des sous et je n'ai rien reçu, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas avec ça que je vais pouvoir acheter des signatures aux sénateurs, aux députés. Je vous rappelle que les sénateurs et les députés, faut pas leur en promettre. Hein. Ils ont l'habitude quand même de toucher le paquet. Donc il faudrait peut-être envoyer un peu la soudure, comme on dit.
C'est en euros qu'il faut les payer maintenant?
Envoyer du fric.
Non, mais pour les sénateurs et les députés.
Oh, ils savent même pas que ça existe. Les sénateurs, il doit falloir les pêcher, je sais pas, avec des écus. Mais en tout cas, alors, j'ai décidé, d'ailleurs, c'est sérieux, non mais c'est blague à part, hein, vous envoyez vos dons, 4 places France Litz, pour la candidature de Serge Dubéquet. Tiens, faites le chèque à mon ordre directement.
Oh, bah,
non mais il n'y a pas de raison, pourquoi ce serait toujours les mêmes qui prendraient l'argent? Pourquoi moi je prendrais pas? Vous n'êtes pas d'accord?
Moi ça me fait pleurer tout ça.
Bah écoutez, non, mais enfin. Alors j'ai même fait, moi j'ai pas fait de cabinet fantôme, c'est à la mode les cabinets fantômes. Moi je suis encore plus à la mode, j'ai fait un cabinet Halloween.
Pitié.
Alors, donc à l'intérieur c'est le grincheux, à la santé c'est Hachoum bien entendu, à l'éducation nationale c'est Simplet, ça va sans dire, ou prof, ils seront deux.
J'aurais plutôt vu à l'Elysée Simplet.
Mais il y a déjà... ou prof, vous voyez. Bon. À la médecine, j'ai dit déjà. La marine, j'ai mis capitaine Crochette. À l'écologie, c'est Madame Tartine, bien sûr. Et puis, la défense nationale, le petit soldat de Tchaïkovski. C'est Tchaïkovski, le petit soldat, c'est ça?
Vous avez vos chances.
Ouais. Voilà, donc envoyer de l'argent, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est bien clair que en démocratie, quand on fait de la politique, c'est pour prendre du fric. Hein?
Et si c'est Osama Bin Laden, et c'est possible d'envoyer des dinars?
C'est tout ce que tu peux, mon ami. Tu
peux me donner des organis?
Mais pas dans une enveloppe, hein, pas de mandat lettre.
À ce propos-là, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on cache du charbon dans de la poudre blanche?
Oui, ça, c'est pas. Mais on va en parler. Alors, vous avez reconnu certainement la voix de Pierre-Henri Bunel, qui est l'auteur de deux livres essentiels et d'un troisième qui va sortir. Alors, le premier livre, c'était Crime de guerre à l'OTAN.
Voilà, qui sera réédité au mois de novembre avec un chapitre de plus et des révélations de plus, voilà. Et plus quelques photos.
Le deuxième,
c'est Mes services secrets, actuellement en vente, qui marche pas mal.
Un recueil de souvenirs d'un espion français. Et le troisième, alors qui sort là maintenant, s'appelle Menace islamiste.
Oui, Menace islamiste avec un sous-titre, parce qu'il faut éviter toute ambiguïté. C'est terroriste qui dévoile l'islam. Mais
Parce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a un bon islam et puis il y a un mauvais islam qui est l'islam terroriste.
Il y a l'islam qui est une religion, on en pense ce qu'on veut, puis il y a l'islamisme.
Non, justement, on n'en pense pas ce qu'on veut. Je vous rappelle qu'il y a quand même un élu du Front National qui vient d'être frappé de 5 ans d'interdiction civique parce qu'il avait dit ce qu'il pensait de l'islam.
Ah oui,
on n'en pense pas ce qu'on veut.
J'ai pas dit qu'on pouvait en dire ce qu'on veut.
On penser du bien.
J'ai pas dit qu'on pouvait en dire ce qu'on veut. J'ai dit qu'on peut en penser ce qu'on veut. Mais surtout, on verra bien que dans ce livre.
Vous êtes pas un amalgam boy.
Je suis pas un amalgam boy, mais surtout que le terrorisme dont je parle, c'est un terrorisme apatride et financier.
Ah, oh là.
Et on verra bien que ça n'est pas forcément des musulmans, que M. Ben Laden n'est pas tout seul. Et voilà.
Vous vous engagez sur une piste glissante qui va nous conduire à des propos politiquement incorrect, je regrette de devoir vous le dire, cher ami. Donc, menace islamiste, c'est terroriste qui dévoile
l'islam.
Vous, Fersan, vous n'avez rien publié récemment ?
Récemment, le quatrième tome de stratégie, donc le recueil d'articles de politique étrangère du livre que je fais paraître dans le Libre Journal depuis bientôt 9 ans.
Donc si vous êtes abonné au Libre Journal depuis 9 ans, c'est pas la peine d'acheter ce truc-là parce que vous avez tout lu.
Il y a des articles inédits dedans quand même.
Ah bon.
Voilà, et sinon le mensonge antiraciste, donc la suite de l'imposture, va sortir incessamment sous peu, mais ça sert, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement.
Vous savez qu'à force de dire incessamment sous peu pour rire, on finit par le dire sérieusement, donc il faut arrêter ça, parce que c'est ce qu'on appelle un pléonasme redondant, ça, incessamment sous peu. Philippe Lancard-Dassac, bonsoir.
Bonsoir, excuse de mon retard, j'ai été retenu par un rendez-vous.
Le micro.
Il n'est pas branché?
Si,
mais il faut peut-être être devant.
Encore, je vais pas le manger quand même.
Si, d'autant qu'il est vert, il est couleur pistache, voilà. Faites quand même une glace à pistache.
C'est un micro islamique.
C'est un micro islamique. Alors, quelques nouvelles de l'actualité. Un auditeur me téléphone tout à l'heure pour me dire, vous savez, il va y avoir une conférence qui pourrait être intéressante à la faculté de Sceaux, la faculté Jean Monnet de Sceaux. Dans sa conférence dans le sujet et sommes-nous bien informés, et dont le conférencier est Monsieur Ball, qui est professeur dans cette université et qui est un ancien membre du CSA. Et il me dit, pour tout renseignement, vous téléphonez au 01 40 91 19 00, qui est le numéro de téléphone de l'université de Sceaux.
Exactement, de la bibliothèque de l'université.
Alors, donc, mon excellent camarade Fersan, qui était là, me fait l'amitié de téléphoner pour moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, en vrai ?
Eh bien, le préposé m'a répondu qu'il n'était pas au courant.
Je n'en sais foutre rien, lui a-t-il dit.
C'est une information.
Donc, voilà, à la faculté de Jean Monnet de Sceaux, ils organisent des conférences, personne n'est au courant. J'espère que quand même le gardien de la fac est au courant, parce que si quand le professeur Ball arrive, il lui interdit de rentrer en disant « je suis pas au courant », ça va être difficile. C'est l'administration, ça, c'est magnifique. C'est magnifique, l'administration française. Moi, je regrette de ne pas avoir été fonctionnaire. Je serais beaucoup moins embêté. Enfin, on ne va pas dire du mal des fonctionnaires, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Il y a des bons fonctionnaires. Hein. J'en ai connu un, personnellement. Ma mère était très bonne.
Moi, je connais deux excellents fonctionnaires, c'est mes parents.
Qui, vous ?
Victoria, moi, je le fais.
Ah, vous étiez dans l'assemblement public ?
Pas alors, public.
Laïque
et obligatoire.
Quelle horreur.
Vous étiez donc une hussarde.
Une hussarde. Une hussarde de Dvar.
Une hussarde d'après coup.
Alors ça, voilà, c'est le genre d'information que j'aime bien donner. Je vais donner une autre information que j'aime pas trop donner, mais je suis quand même obligé de le dire. Il y a eu hier une manifestation de la police contre le laxisme judiciaire. Et alors, naturellement, il y a beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, de lecteurs du Libre Journal et d'autres publications bienvenues qui ont voulu participer à cette manifestation, qui y sont allés. Et à cette manif, il y avait les représentants de la droite nationale, notamment les élus du Front National qui étaient là avec leurs écharpes d'élus. Et ils se sont fait pratiquement casser la gueule par les flics qui ont dit « on veut pas de vous, barrez-vous » et qui ont fait un cordon sanitaire autour de la manifestation pour empêcher les élus du Front National d'y participer. Alors, et après les avoir invités d'ailleurs, parce que Gollnisch avait une lettre d'invitation dans sa poche, qu'il a brandi au nez du service d'ordre de la manifestation en disant « comment vous nous invitez, après vous nous virez, ta gueule, connard de facho ».
Ce n'était sans doute pas le même syndicat.
Oui, mais enfin c'était censé être une manifestation unitaire. Alors, je voudrais dire une chose. Dieu sait que j'ai rien contre la police. Il n'y a pas que Dieu qui le sait, d'ailleurs, je l'ai assez dit. Mais je suis obligé de constater une chose. Chaque fois, ça se passe comme ça. Chaque fois qu'il y a une manifestation de policiers, il se passe ce genre de choses. Alors, il ne faut plus aller dans les manifestations de policiers, il ne faut pas y participer, parce que ce sont des attrape-couillons. Ce sont des manifestations qui sont organisées par des gens de gauche, par des syndicats communistes, car il y a beaucoup de communistes dans la police, socialistes, car il y a encore plus de socialistes dans la police, sous contrôle de la maçonnerie, car il n'y a pratiquement que des francs-macs dans la police. En tout cas, à partir du grade de commissaire, vous pouvez être à peu près assuré que, comme dans la gendarmerie, à partir du grade de colonel, vous avez 90 chances sur 100 de tomber sur un tablier en peau de cochon. Donc il ne faut pas vous étonner de voir ce qui se produit. Le problème aussi, c'est que, bien sûr, la police n'a pas le droit de grève, mais la police pourrait faire... les policiers qui souffrent vraiment de la situation, mais après tout, je pense qu'ils en ont un peu la responsabilité, car si c'était fait respecter en temps et en heure, la situation ne se serait pas dégradée comme ça. Si, par exemple, ils avaient refusé, comme ils pouvaient le faire, de se prêter aux incroyables mascarades de l'intégration par des flics qui donnent en tenue de jogging, qui font courir les talibans lieusards, qui leur prêtent des motocyclettes, qui leur font faire de l'escalade, qui les emmènent à la plage, qui les emmènent se baigner, qui les emmènent...
Ils leur donnent pas des cours de pilotage au moins, non?
Si, ils leur donnent des cours de pilotage, absolument.
Exactement.
Si vous lisiez le Libre Journal, vous le sauriez. Il y a effectivement des cours de pilotage qui ont été donnés dans des écoles de pilotage à des talibans lieusards. Et... Donc si les flics s'étaient pas prêtés à ça, s'ils avaient gardé leur distance, s'ils avaient traité les talibans lieusards comme ils traitent les militants nationalistes quand ils les rencontrent, les choses seraient beaucoup plus claires. Alors on peut pas pactiser avec l'ennemi, on peut pas faire ce petit jeu-là. On peut pas être à la fois copain et se plaindre après quand on prend des claques dans le dos qui ressemblent à des baffes dans la gueule. Donc je dis... Si les policiers voulaient réagir, ils ont un moyen très très simple. Ce serait par exemple de faire la grève des contraventions. Or, en venant, qu'est-ce que j'ai vu? En venant ici, j'ai vu un spectacle extraordinaire. J'ai vu ce qu'on appelle un mulet en langage de policier. Hein, autrement dit, un bleu, enfin, un policier en tenue, en train de verbaliser une voiture de la poste qui était un petit peu mal garée. Je veux dire, ça s'appelle le chien enragé qui mord ses propres plaies. Quand les représentants de l'État mettent des contraventions à d'autres représentants de l'État pour que la Poste, qui est un service public, paye des contraventions au ministère de l'Intérieur ou à la ville de Paris, on est vraiment, pas la ville de Paris en l'occurrence, puisque c'était un poulet, on est dans le délire complet. Ce pays est en train, je le dis, de devenir totalement fou. Totalement fou, et il faut arrêter les conneries. Alors, si les policiers veulent avoir le soutien de la population, il faut qu'ils arrêtent d'emmerder la population avec des détails à la mort moelleux qui n'intéressent personne et qui s'occupent véritablement de problèmes de problèmes d'ordre. Cette affaire a été provoquée par un sextuple assassinat, c'est-à-dire 4 morts d'un côté, 2 morts de l'autre, 4 braves personnes qui ont été flinguées par des voyous dans un bistrot, et 2 policiers qui ont été flingués en intervenant sur un
pavillon,
sur un cambriolage dans un pavillon. Or, depuis que cette affaire est en cours, on nous bassine littéralement sur toutes les télévisions et sur toutes les radios en appelant l'auteur des assassinats, l'auteur supposé des assassinats, Jean-Claude Bonal, en l'appelant le Chinois. Moi, comme on dit maintenant, ça m'interpelle quelque part, cette histoire. Je pose la question. Si ça avait été un Africain, est-ce qu'on aurait dit le Nègre?
Exactement.
Si ça avait été un Maghrébin, est-ce qu'on aurait dit l'Arabe? Si ça avait été un Israélite, est-ce qu'on aurait dit le Juif? Pourquoi se permet-on d'un seul coup d'anathémiser une ethnie, alors qu'en plus il n'est pas plus chinois que moi, d'abord il est né à Saïgon, et c'est un quarteron de chinois ou de vietnamien, ou je ne sais pas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou furieux, où d'un seul coup on appelle ce type le chinois? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les chinois, on a le droit de les insulter, on a le droit de globaliser la criminalité sur le chinois, hein, le tueur, l'assassin modèle, l'ennemi du public numéro un, il y en a deux maintenant, c'est Ben Laden, que personne n'appelle l'arabe, je le fais remarquer. Et puis c'est Jean-Claude Bonal que tout le monde appelle le Chinois.
Normalement, Ben Laden,
ça y a une explication.
Monsieur le Président, Directeur Général.
Oui, c'est les entreprises Bush et Ben Laden.
Et ça pour, Ben Laden. Pour le Chinois, il pourrait y avoir une explication. C'est qu'ils avaient fait un sondage politique sur les opinions politiques des communautés immigrées. et il se trouvait que la communauté asiatique soit la seule qui soit massivement à droite. D'ailleurs, à titre très anecdotique, aux dernières élections cantonales, les deux ressortissants de couleur présentés par un parti de droite nationale étaient deux ressortissants de la communauté asiatique.
Voilà, et je voudrais d'autre part vous dire que vous écoutez une émission subventionnée par le Bnaibri, si on en croit du moins un personnage, vraiment qui est un des grands personnages comiques de notre époque, enfin dans un cercle restreint, qui fait le journal de Miguet. Vous connaissez le journal de Miguet ?
Oui, bien sûr, c'est le seul quotidien qui paraît chaque mois.
Qui paraît chaque mois, et encore. Alors dans le journal de Miguet, il y a une explication, d'ailleurs... écrite dans un français extrêmement approximatif. Il faut vraiment travailler la langue au pic à glace pour arriver à comprendre ce que Miguet a voulu dire, si tant est qu'il ait jamais voulu dire quelque chose. Alors, il dit que... je crois que c'est... Alexandre Delval, qui a été reçu dans cette émission deux fois. Le fait qu'Alexandre Delval ait été reçu deux fois dans mon émission prouve que Radio Courtoisie est subventionnée ou enfin est pistonnée ou est couverte ou aidée par le Bnaibri, par mon intermédiaire. Alors, ça c'est même ça pas digne du coup, journal ça. De Miguet, ça c'est digne de je sais pas quoi.
Ah c'est donc ça, je me demandais
c'est qui c'était. C'est le hérisson, c'est sans blague. C'est, Miguet, il faut changer de métier mon vieux. Il faut arrêter de faire des petites cochonneries sur des bouts de papier. D'abord ça ne se vend pas. Même en piquant les fichiers d'adresse du Libre Journal, il n'est pas arrivé à trouver d'abonnés. Il faut arrêter de faire ce métier-là Miguet. Il faut faire un métier digne de vous. Il paraît que l'agriculture manque de bras. Il paraît également qu'on embauche beaucoup chez les vidangeurs. Vous devriez aller faire un tour.
Marquis, j'ai entendu dire l'autre jour, ce matin, en écoutant la radio, j'ai entendu dire que sur Rire et Chanson, ils embauchaient.
Oui, mais qui fait-il rire, Miguet okay.
Et son banquier, peut-être.
Oui, ça, c'est pas exclu. Ah, enfin, moi, il m'aurait fait bien rigoler, quand même. Un jour, je publierai sa correspondance. Vous verrez, ça vaut le coup. Dans la série, les choses vont bien. Je continue. Si vous voulez dire quelque chose, m'interrompez. Hein.
Oui, encore... 30 secondes, Serge. Oui. Pour revenir à la police, parce que je vois que je ne sais pas si on reviendra sur le sujet. Il faut rappeler une chose essentielle, c'est qu'aux élections syndicales, pas les dernières, mais celles d'avant, à la base, avaient voté à 43% pour des syndicats de gauche, et au niveau des officiers de police, c'était monté à 95% de vote pour des syndicats de gauche, avec 75% de participation. Et n'oublions pas que les syndicats de police ont donné, entre autres individus, Monsieur Arajol, qui avait déclaré quand même dans une interview au journal du dimanche « Plus stalinien que moi, tu meurs », et donc qui est issu d'une famille de rouges espagnols, et qui ensuite on a retrouvé dans le sillage de Monsieur Pasqua, selon la bonne vieille alliance golchevique
dont on connaît depuis longtemps. Une compagnie de la garde républicaine en service à l'Élysée a refusé lundi de présenter les armes à l'ordre de leur commandant. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, mon commandant, ça, à propos ?
Alors j'ai un peu gratté cette affaire. C'est parce que le commandant en question aurait puni injustement un des gendarmes. Bah, ça me rappelle des... J'ai l'impression qu'il s'agit d'une mutinerie. Patiomkin, hein, je crois, on disait.
Non, c'est le 17e de ligne. Bravo oui, soldat du 17e. Oui, vous auriez, etc., etc. Non, mais attendez. C'est pas la première fois qu'il y a un mouvement de mauvaise humeur chez les militaires.
En plus, il s'agit d'un régiment de la garde, d'une unité d'un régiment de la garde.
Et ça s'explique. Évidemment, à force d'avoir, parce qu'ils sont allés à l'Élysée. C'est une preuve de la contagion de la débandade, si j'ose dire. Quand vous avez un président de la République qui s'appelle Chirac, le président de la République, vous ne pas étonné, je vous le garantis, j'ai mes informations. Et que vous le voyez toute la journée, parce que les gardes républicains qui sont à l'Élysée, ils le voient toute la journée.
Ah ben oui.
Enfin, quand il y est, en tout cas.
Quand il va prendre l'avion.
Quand ils ont sous les yeux l'exemple de ce personnage, ils se disent qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Hein, si on peut faire n'importe quoi comme président, pourquoi on le gênerait comme garde républicain ?
Ben Marquez, donc, c'est pas la première fois, parce que il faut se souvenir qu'à l'époque des émeutes de Vaux-en-Velin en 1990, où la compagnie de CRS de Nice, on avait ramassé plein la figure à Vaux-en-Velin, par solidarité, la CRS de Troyes avait refusé d'assurer la protection de la maison de Pierre Jox. En solidarité avec leur collègue niçois qui en avait ramassé plein la figure, ce qui avait d'ailleurs provoqué la mutation illico presto du colonel.
Et ouais, c'est tout. Il y a quand même une chose, c'est que les gendarmes sont en principe des militaires, Et
mais pas des soldats.
Ça peut être des soldats.
Moi, le souvenir que je garde, c'est plutôt...
Ce que je trouve extrêmement symptomatique dans cette affaire, c'est pas la première fois que les gendarmes ont des états d'âme. Hein. Il y a eu quelques années aussi, ils avaient fait des articles dans la presse. Ce qui me paraît extrêmement inquiétant, c'est que ce mouvement d'humeur, qui demande certainement à être gratté, correspond un petit peu aussi à ce que je sens dans d'autres armées. Parce que j'ai toujours mes contacts avec les armées. Et actuellement, j'ai bien l'impression que...
Dans d'autres armes, vous voulez dire
D'autres
corps.
D'autres armées. C'est-à-dire que vous avez l'armée de terre, la marine, la gendarmerie, donc ils sont des armées. Et ça me rappelle ce que j'avais eu l'occasion de dire sur une chaîne câblée. C'est par la tête que pourrit le poisson. Et quand les services publics ne savent plus où ils vont, c'est qu'on ne leur donne plus des ordres clairs et nets. Actuellement, il y a un ras-le-bol général parce qu'on demande énormément à des gens de moins en moins nombreux et on leur demande des choses avec des ordres de moins en moins exécutables. Quand on dit « vous faites au mieux », vous voyez, vous faites au mieux, et vous me rendez compte, ça, c'est, des fois on le dit, vous me rendez compte, ça ne peut plus passer. Il y a une chose aussi, c'est qu'on a mis en avant, au lieu de la discipline intellectuelle, qui est une position extrêmement pratique pour l'autorité. Car la discipline intellectuelle vue de l'autorité qui donne les ordres, ça consiste pour le subordonné à exécuter les ordres qu'il aurait dû recevoir. Mais au bout d'un certain temps, la discipline intellectuelle vue du subordonné, c'est, sachant qu'on vous fait faire une ânerie, la faire la plus grosse possible pour que ça se voit bien.
Ça, c'est très réussi en ce moment, de dire.
Démonstratif.
Ça, c'est un commentaire, Philippe, pour faire de ça.
Oui, j'avais réagi comme vous quand j'avais vu cette histoire du chinois. Je m'étais dit, tiens, c'est curieux. Pour lui, on dit le chinois, mais on n'aurait pas dit... comme vous le signalez tout à l'heure, maghrébin, etc.
Ouais.
On aurait dit jeune ou ancien jeune ou je sais quoi.
Donc si vous voulez vous lancer dans la carrière des armes, enfin pas comme gendarme, mais plutôt de l'autre côté de la barrière, évitez d'être chinois. C'est pas, on peut dire que c'est pas une circonstance atténuante. Hein. Voilà. Il y a deux trucs qu'il faut pas être, c'est islamiste et chinois. Alors les Ouïghours, en ce moment, il vous ferait mieux de pas trop venir traîner en France.
Les Ouïghours, ils sont pas chinois d'ethnie.
Ils sont pas chinois.
Mongols.
Alors, une petite information qui m'a beaucoup frappé. Écoute, c'est un peu compliqué, mais vous verrez que c'est intéressant. En août 2001, pourquoi vous regardez comme ça? Parce que je dis août, comment vous dites-vous?
Je ne sais pas.
Vous dites pas, bon, on ne dit plus rien. En août 2001, un médicament de la classe des statines, destiné à lutter contre l'hypercholestérolémie, est accusé aux USA d'être dangereux et donc retiré du marché. Le laboratoire pharmaceutique concerné voit sa vitalité financière compromise au point qu'un rachat est évoqué.
C'est Bayer, non ?
J'ai pas l'information. C'est ce laboratoire qui commercialise le principal antibiotique préconisé ce jour dans le traitement de la maladie du charbon.
Alors,
il faut savoir une chose, c'est que depuis qu'on nous bassine avec l'histoire du charbon, il y a eu 3 morts qu'on attribue au charbon. Et en revanche, il y a eu des dizaines de millions de doses d'antibiotiques qui ont été vendues. Autrement dit, pour le laboratoire en question, c'est un booster formidable.
C'est une monnaie d'échange ou quoi?
Je sais pas, non, mais je trouve ça drôle parce que tout le monde nous parle du charbon, c'est zéro, c'est peanuts, il n'y a rien.
Il n'y a pas
de 3 morts dans le monde depuis le 11 septembre à cause de la maladie du charbon.
C'est moi qui ai tué le tunnel suisse cet après-midi.
Mais c'est moins que. Je suis certain qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été tués dans le monde pendant cette période par un regard désagréable de leur femme que par la maladie du charbon, c'est évident. Un regard méchant tue plus radicalement, statistiquement, 3 personnes sur 60 millions en un mois. C'est quand même pas, c'est pas la tragédie du siècle.
Hein, on est en pleine manipulation.
Alors, on est en pleine manipulation, c'est absolument certain. Je vais vous dire à quel point on est en pleine manipulation. Il y a un document qui vient de paraître sur les précautions à prendre. Je l'ai oublié, c'est pas grave. Il était interminable, j'aurais pas pu le lire. Sur les différentes précautions qu'il faut prendre. Un document officiel paru en France. Tout ce qui est le plus officiel, hein, destiné au service, tout ce qui est le plus officiel. Sur les précautions qu'il faut prendre en France dans l'hypothèse d'une lettre avec de la poudre blanche. Alors, il y a d'abord un truc, on vous dit, comment reconnaître une lettre probablement...
Elle a été postée en Afghanistan.
Non, pas du tout. Elle porte une contre-adresse. Elle n'a pas de contre-adresse. Ou elle a une contre-adresse fantaisiste. Alors d'abord, comment vous voulez reconnaître? Elle est écrite à la main. J'exagère pas. Hein. Et voilà. Enfin, en gros, c'est ça. Quoi. Si vous recevez une enveloppe écrite à la main et qu'il n'y a pas de contre-adresse, il y a probablement du charbon dedans. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler les pompiers, la police, qui vont venir avec des masques à gaz, des scaphandres, en hélicoptère. Ils vont brûler tout le quartier, etc. Or, il y a un Allemand, un scientifique allemand, qui est venu, je crois, devant le Congrès aux États-Unis, et il a dit. Il y a un moyen très simple de régler les problèmes de l'anthrax. Avant d'ouvrir l'enveloppe, vous la repassez avec un fer à vapeur. Un fer à vapeur.
Tout à fait.
Car les microbes ne supportent pas la chaleur humide. Voilà. Autrement dit, prenez une enveloppe, un coup de fer à vapeur, et vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez même manger la poudre qui est dedans, vous risquez rien. C'est pas la peine de faire venir le banc et l'arrière-banc des pompiers. Il n'y a pas un type en France qui a dit ça. Le seul qui a eu une attitude à peu près raisonnable et intelligente, c'est Emmanueli. Emmanueli,
ah oui.
Tout arrive.
Hein, ah oui.
Qui a rigolé en disant, écoutez, il faudrait quand même arrêter. Hein.
Lâchez-nous les baskets.
Lâchez-nous les baskets. Bon. Non mais, on est en plein délire. C'est de la folie furieuse. Le pays est bloqué totalement. À la moindre alerte, les bureaux de poste vident, on fait vider les tours, on fait... Bon, c'est incroyable.
On interrompt le métro.
Et ça se passe dans un pays... Ou à longueur de journée, on nous casse les pieds avec la résistance. En nous disant, voilà, nous, on est les héritiers de la résistance, et nous, on n'aurait pas signé à Munich. Justement. Nous, on n'est pas des Munichois. Ils n'auraient pas signé à Munich. Ils ne sont pas des Munichois. C'est-à-dire qu'ils auraient résisté à la terreur hitlérienne, et ils ne sont même pas capables de résister à 3 grains de sable blanc qui tombent d'une enveloppe dans un bureau de poste. Mais vraiment, on se fout de nous.
Si vous me permettez deux petites anecdotes, Serge. Une qui a évidemment rien à voir avec l'anthrax. Hein. Je précise aux auditeurs, tout ceci n'a absolument rien à voir avec l'anthrax.
10 minutes d'anthrax, si
voilà. C'est il y a quelques années à Paris, il y avait une société spécialisée dans la dépigeonisation qui visait à trouver une solution au problème des pigeons qui proliféraient un peu trop. Et on a, après enquête, d'ailleurs par un hebdomadaire dont vous eût été le directeur de la rédaction, avait révélé que l'entreprise de dépigeonisation était avant une entreprise d'élevage de pigeons. Ça n'a évidemment aucun rapport avec l'anthrax. Et autre problème...
Attendez, je vous coupe un instant parce qu'il y a des messages qui arrivent. Alors, le chinois, ce ne sont pas les médias qui l'ont appelé comme ça, c'est le milieu du banditisme. Faites attention, ne dites pas n'importe quoi. Mais c'est vous, mon pauvre monsieur, qui dites n'importe quoi. Je ne sais pas comment ses amis l'ont appelé, mais ce que je sais, c'est que c'est les médias qui nous cassent les oreilles depuis des jours avec le chinois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est pas un membre de la bande du chinois qui est venu me dire en confidence, on l'appelle le chinois. Donc, je vous dis, c'est bel et bien les médias qui ont colporté le surnom raciste de chinois, alors qu'il se serait bien gardé de colporter le surnom raciste de l'arabe ou le nègre ou le juif si ça avait été le cas. Donc il y a bien une différence de traitement qui est faite selon l'ethnie du délinquant. Pardon de vous avoir coupé.
Voilà, donc retour à notre anthrax. Mais l'anthrax, ça peut être dangereux, puisqu'en 1943, il faut savoir que la Grande-Bretagne avait fait des expériences sur l'anthrax dans le cadre d'une guerre chimique qui visait à éradiquer totalement la population allemande de la surface de la Terre. Et ils avaient donc, dans le Shetland, utilisé cet anthrax dans une île sur un troupeau de moutons pour voir l'effet du produit. Et presque 60 ans plus tard, l'île est toujours inhabitable.
Remarquez, elle était déjà inhabitable avant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les îles du Shetland, mais...
C'est plutôt frisqué là-bas, le climat.
Hein, c'est quand même pas les îles sous le vent. Hein. C'est pas les îles Borromée. Je voulais dire quelque chose à propos de l'anthrax qui vient de me sortir de la tête, mais ça me reviendra. Quand on parle d'insécurité, écoutez ça. C'est quand même génial, non? Une vingtaine de garçons, ce coup-ci c'est des garçons, c'est plus des jeunes, seront jugés par la cour d'assises des mineurs du Val d'Oise pour avoir violé à répétition à Argenteuil, jusque dans les toilettes du tribunal de Pontoise, une jeune fille de 15 ans entre décembre 98 et janvier 99. Alors l'histoire est ahurissante. Cette gamine a été embarquée par une bande de beurre, disons le mot, quoi. Ils l'ont entraînée alors à Argenteuil dans le quartier de la Dalle. Elle a été violée, elle a été battue, elle a été torturée, elle a été séquestrée. Elle sort. Naturellement, ces tortionnaires sont pas arrêtés. Le 14 décembre 98, elle a quitté Argenteuil à cause de ses ennuis, bien sûr. Au hasard d'une sortie parisienne, elle rencontre une ancienne copine du quartier de la Dalle, qui l'invite à la suivre vers Argenteuil sous le prétexte de lui rendre un blouson emprunté quelques mois plus tôt. Alors la beurette, qui doit quand même pas sortir de Polytechnique, elle y va tranquillement, et elle est conduite dans une cave de la cité, dans une cage d'escalier, où elle est violée par plusieurs garçons âgés de 15 à 20 ans. Pendant qu'une partie du groupe fait le guet au rez-de-chaussée, le reste de la bande abuse de la jeune fille. Le soir venu, elle est emmenée dans un squat où elle doit de nouveau subir les assauts d'autres garçons, dont la plupart n'ont pas 18 ans. Le lendemain, ça recommence dans une cave, puis dans une cabane. Parmi les violeurs figure un certain Nassim, 19 ans, qui vient de sortir de prison quelques heures plus tôt, et qu'on est allé chercher, qu'une des rabatteuses est allée prévenir de la présence d'une fille à soigner. Le 16 décembre, une partie des ravisseurs, dont la principale rabatteuse, sont convoqués au tribunal pour enfants de Pontoise, où ils doivent comparaître pour un vol avec violence remontant à plusieurs mois. La beurette est forcée de les accompagner. Une fois au tribunal, ces ravisseurs la violent dans les toilettes du palais de justice, puis dans le train qui la ramène vers Argenteuil après l'audience. Elle est conduite dans les toilettes du wagon où elle doit se soumettre au désir de plusieurs garçons. Quelques heures plus tard, elle est relâchée. À ses parents inquiets qui avaient signalé sa disparition, elle dit, tellement elle a peur, qu'elle a fait une fugue. Elle prétend qu'elle a fait une fugue. Détruite psychologiquement par 3 jours d'enfer, elle reste à la merci du gang, menace téléphonique, pression permanente. En janvier 99, une des rabatteuses lui file un nouveau rendez-vous sur Argenteuil, en lui promettant cette fois-ci il n'y aura pas de garçon. La pauvre idiote, elle y va. Arrivée sur le quai d'Argenteuil, ça devient comique à ce niveau-là, elle est attendue par une partie de la bande, et ça recommence, elle est reconduite dans l'immeuble où elle est de nouveau violée, puis dans la cave où elle est de nouveau violée, elle est emmenée sous escorte à un foyer de jeunes travailleurs dans une chambre, elle est violée par plusieurs jeunes sous la menace d'un couteau, et on la menace de représailles si elle appelle la police. De retour dans sa famille, elle se mure dans le silence, elle va craquer quelques semaines plus tard devant une amie qui va prévenir les proches et la police. Elle quitte la France et elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Un spécialiste qui s'est occupé d'elle a dit que les séquelles étaient tellement lourdes qu'elle est devenue totalement, totalement folle. Et parmi ses agresseurs, il y a un certain K. On n'ose même pas donner son prénom. Ça pourrait être Karim, ça pourrait engager ou Kamel, on ne sait pas.
Ou Kader.
Ou Conrad.
Oui. Conrad. Ça doit être Conrad, probablement.
Ça doit être Conrad. Karl, probablement. Donc, décrit comme le caïd de la dalle, ce grand ensemble d'Argenteuil de 17 000 habitants, le parcours de ce jeune... Ah, je sais pas, Karl, c'est pas un vrai nom de jeune, hein. On peut être jeune.
Si c'était Karl, on aurait dit le prénom en entier.
Oui, c'est ça. Donc c'est probablement pas Karl, c'est peut-être Constantin, c'est peut-être un grec. Alors, à 23 ans, voilà, premier vol à 10 ans, braquage 5 ans plus tard, 1 an d'emprisonnement, le tout ponctué de visites régulières au commissariat, au tribunal pour des actes de violence. Sa scolarité est un échec complet avec un redoublement dès le cours préparatoire. C'est étonnant qu'il pourrait violer la maîtresse. Quatrième technologique rendu chaotique par ses séjours répétés en garde à vue. En fait, ce sont ses 4 frères aînés qui lui ont montré l'exemple et tracé le chemin. Depuis 11 ans, rien n'a pu entraver le parcours de plus en plus violent de ce caïd qui quitte la prison pour intégrer un foyer, puis un autre, puis retourner en prison, etc. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des chances pour la France. Il est impliqué d'ailleurs dans un autre dossier de tournante à Cergy, quelques mois avant le viol collectif d'Argenteuil. La jeune femme de 19 ans, soupçonnée d'avoir piégé la victime et de l'avoir livrée aux jeunes, a elle aussi échappé très vite au système scolaire. Elle a inauguré son parcours judiciaire dès 14 ans et l'a poursuivi depuis la tournante. Et alors écoutez ça, c'est là qu'on arrive au grandiose. Tout le monde a sa part de responsabilité, admet la présidente d'une association de prévention qui travaille sur la dalle. Les parents d'abord, qui n'assurent pas le leur à l'écart des enfants. L'éducation nationale ensuite. L'école est tout de même obligatoire jusqu'à 16 ans. Et la société tout entière.
Voilà.
Aujourd'hui, la victime a quitté la France. Elle a sombré dans une forme de folie. Elle est presque morte. Confie le garçon qui s'occupait d'elle, enfin le spécialiste qui s'occupait d'elle. Les dégâts causés sont considérables et les séquelles irréversibles pour elle et ses proches. C'est une jeune fille brisée.
Mais ça sert, voilà. ça se passe tous les mois, des trucs comme ça.
Oui, ben, je sais bien. Vous direz
dans le livre à paraître, je mets le témoignage d'un officier de police qui est arrivé le 27 septembre sur mon courrier électronique. Alors, je ne m'étends pas dessus, c'est dans le livre, c'est monstrueux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des directives de communication qui ont été données par le commissariat à la presse pour éviter des ratonnades en représailles, parce que cette affaire s'est passée après.
Des jeûnades. On ne dit pas des ratonnades, on dit des jeûnades.
Oui, si on veut.
Ouais, c'est autrement. Bon,
enfin, je l'ai mis in extenso parce qu'il il a mis sur le courrier électronique, il a dit « Mettez ça sur votre site sans mettre mes initiales. » Voilà.
Et justement, comme je l'avais dit dans le racisme anti-français et anti-chrétien, à Saint-Bonnet-le-Château, c'est une ville qui est, je dirais grosso modo, dans la banlieue de Saint-Étienne. Une gamine de 12 ans, qui s'appelait Jeanne, donc c'est un prénom de chez nous quand même, a été raquettée et violée pendant 2 mois par un groupe de jeunes, donc, enfin 4 jeunes et une jeunette. Et les jeunes susnommés, donc la môme est devenue folle, elle est en Asie, elle n'est toujours pas sortie. Et les jeunes en question ont fait en tout et pour tout comme peine 5 semaines de préventive, c'est-à-dire moins que la peine à laquelle que le tribunal avait requis contre Catherine Maigret pour ses propos somme toute de bon sens qu'elle avait dit dans le Berliner Zeitung au sujet des problèmes de l'immigration en France.
En plus, qui était faux.
Voilà. En plus, c'était même pas. Était en plus des propos qui avaient été falsifiés.
Alors, pour vous rassurer quand même, je voudrais vous signaler que ce genre de sujet n'est pas étranger aux préoccupations des gens qui nous gouvernent, puisque le Conseil économique et social s'est penché sur la question. J'ai là le journal officiel de la République française, Office parlementaire, qui étudie différents sujets. Alors, mercredi 24 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, si je ne me trompe, à 17h, c'est-à-dire ça vient de commencer, il y a à l'étude un sujet qui est l'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs, éventuel, hein, on n'est pas sûr, on ne sait pas. Peut-être que consommer des drogues, ça n'a aucun effet sur la santé mentale. Et d'autre part, demain, 25 octobre à 14h45, la commission spéciale du plan se réunira, salle 302, pour étudier un sujet qui me paraît tout à fait d'actualité, c'est les défis de l'immigration future. Rapporteur, M. Amlaoui Mekachira, audition de M. Bernard Stasi, médiateur de la République, et de M. Patrick Veil, professeur à Paris 1 Sorbonne, président de la commission de rédaction du rapport du Premier ministre pour une politique de l'immigration juste et efficace.
Ça va être objectif.
C'est en bonne voie, M. Veil. Je vous dis, la politique de l'immigration juste et efficace, il faut simplement éviter d'être une fille, de prendre le métro ou le train à n'importe quel moment du jour ou de la nuit d'ailleurs, à ce moment-là on peut avoir des résultats à peu près possibles.
On dit qu'on met en cause une certaine communauté et les membres mâles de cette communauté susnommée. Alors là je suis désolé, ils n'ont pas le monopole des viols, de ces viols ethniques qu'on appelle des tournantes, qui sont en fait des viols ethniques racistes, puisqu'il y a un cas qui s'est passé à Hayange, dans la banlieue de Metz, d'une jeune fille qui a été violée et torturée pendant 12 heures dans un foyer de jeunes travailleurs, et elle n'a pas été torturée par des maghrébins, mais par des maghrébines, au féminin pluriel, si j'ose m'exprimer, si vous me permettez ce mauvais humour.
Aucun caractère de racisme sexuel, par conséquent.
Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des...
Oui.
Vous voulez nous dire des choses, ou est-ce que peut-être Philippe Lancardassac veut intervenir?
Bon, il est évident que tous ces actes de barbarie vont finir par déclencher des mouvements, soit dans la police, soit dans les populations. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça apporte de l'eau au moulin à tout le matraquage médiatique des Américains dans le contexte actuel. C'est embêtant, et on se trouve, nous-mêmes, nous sommes piégés dans cette histoire.
C'est vrai, vous n'avez pas tort, mais quand on voit, bon, je l'ai dit, là encore, on est dans le délire, mais on apprenait la semaine dernière que dans la cour d'un lycée, je ne sais plus où, une bande de jeunes s'était réunie pour brûler un caleçon qu'on trouve dans les surplus américains, donc un caleçon aux couleurs du drapeau américain, et que un des jeunes avait crié « Vive !» Je ne sais pas, même si je peux le dire,
j'ai peur d'être poursuivi si je dis le nom. Il avait donc
OBL.
Voilà, il avait prononcé le nom d'un personnage qui est dans l'actualité, dans les initiales, son OBL, en faisant précéder son nom de l'exclamation vive. Donc il avait dit vive Ben Laden. Et donc pour ça il a été arrêté, 15 ans, hein. Arrêté, conduit au commissariat, mis en garde à vue, puis relâché sous contrôle judiciaire, sous menace d'un procès qui pourrait déboucher sur, nous dit la presse, 5 ans de prison ferme. Alors, ça me paraît quand même un tout petit peu disproportionné.
Non, mais justement, c'est ça qui est inquiétant dans cette situation, c'est que visiblement, nos gouvernants ne réagissent qu'en fonction d'intérêts qui ne sont pas les intérêts français. Quand les Français sont en cause, on laisse faire, on laisse assassiner, on laisse violer. Et ça, c'est scandaleux. Et il y a un chantage actuellement, justement. Si vous êtes un tant soit peu pour la justice dans les problèmes du Moyen-Orient, donc vous êtes pour l'immigration, donc vous êtes pour Ben Laden, etc. Et il y a, paraît-il, une plaisanterie, qui n'est pas une plaisanterie d'ailleurs, qui est une insulte, qui se veut une insulte, c'est de dire que vous êtes des activistes arabes pour les Français qui ne veulent pas se laisser embarquer dans cette démence de vengeance américaine. Alors ouais. Là, bon, je serai certainement désigné un jour comme étant...
Alors, c'est en fait un petit peu ce que j'explique dans le livre à venir. Si, il faut partir d'un constat. Nous avons une forte population désocialisée dans les banlieues. Et cette population est très majoritairement musulmane ou se croit musulmane parce que la plupart du temps elle manque totalement d'instruction religieuse. Nous avons des banlieues communautarisées. Il y a des terroristes de toute espèce ethnique, c'est-à-dire qu'on peut très bien en avoir qui soient noirs, on peut très bien en avoir qui soient plutôt arabes, d'autres plutôt turcs, d'autres plutôt ce qui est plus français d'ailleurs. Et
oui, les gars de Roubaix étaient.
Bien sûr.
À Roubaix, c'est les islamistes de Roubaix. Il y en avait deux qui étaient les Gaulois.
Alors ceux-là, en plus, j'en ai les fiches de personnalité puisque j'avais été amené à travailler sur eux en liaison avec les autorités musulmanes de Zenica en Bosnie-Herzégovine quand j'étais officier de renseignement à l'OTAN. Donc j'ai bien les deux fiches de ces deux personnes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons des banlieues communautarisées avec des ghettos. Et qu'il y a dans ces banlieues des tas de gens en situation régulière ou irrégulière qui demanderaient qu'à vivre calmement. Mais ces banlieues servent de fond de camouflage à d'autres qui sont beaucoup plus dangereux. Je trouve assez sidérant qu'on ait découvert, tout simplement parce qu'un jeune Français d'origine maghrébine a fait l'imbécile avec des lance-roquettes, que la population française découvre à cette occasion-là qu'il y a des armes de guerre partout. Bon, les armes de guerre qu'il y a dans les banlieues, il y en a partout. Quand la police, à l'occasion d'une fouille antidrogue, tombe sur des armes de guerre, on leur dit surtout, n'en parlez pas. Faut pas que ça se sache, faut pas troubler la population. Mais les armes de guerre ne sont pas là que pour faire du gangstérisme. Et puis ça fait des années que les convoyeurs de fond se font attaquer avec des lance-roquettes RPG-4 ou RPG-7. C'est pas nouveau. Or, d'où nous vient le trafic? Il nous vient, au départ il nous venait du Liban, ensuite il nous vient maintenant des Balkans. Et qui c'est qui fait le trafic dans les Balkans? Ce sont des... ce qu'on appelait des Yougoslaves autrefois. Et quand vous regardez les Yougoslaves, les bandes de Yougoslaves de la Courlie, ce sont en fait des Bosniaques musulmans ou des Kosovars musulmans.
Des Narcosovars.
Qui étaient en fait donc des Yougoslaves. Ou maintenant, plus récemment, eh bien, on a des Albanais, on a des... Mais tous ces gens-là sont avec le consistoire islamique de la Courlie. Alors, ce ne sont pas des découvertes. Simplement, là où il faut faire, à mon avis, extrêmement attention, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui demandent à vivre calmement, que ces gens-là sont les meilleurs identifiants d'islamistes par rapport à des musulmans, et que si on les rejette dans le camp,
en bloc,
dans le camp des islamistes, nous privons de sources d'informations extrêmement intéressantes.
Tout à fait.
Or, ces sources d'informations, pour avoir joué à ça dans les banlieues, ces sources d'informations, on ne peut pas se permettre de les casser. Parce qu'il faut que ces gens puissent avoir des contacts discrets pour pouvoir nous informer. Alors, on peut regretter que les musulmans que nous avons en France ne soient pas tous descendants de nos harkis. On n'y peut rien, c'est comme ça.
C'est comme ça, oui.
Alors, nous avons...
Mais il y a une solution que je vous proposerai quand vous aurez terminé votre exposé.
Parce que, si vous voulez, actuellement, j'ai repris, moi, mes cours de langue. Et ce matin, une de mes élèves, non française, adulte mais chrétienne en matière de religion, se désespérait de voir que la France est molle, qu'elle a baissé les armes, et ça m'a pas fait plaisir. Disons que ça a validé un paragraphe de mon livre où je dis « Nous avons baissé la garde, nous avons désarmé la France ».
Ça, ah, moi, j'ai une solution à proposer à propos des talibans lieusards, qui est extrêmement simple. C'est de dire, il faut faire comme on a fait au moment de la guerre d'Espagne. C'est vrai qu'au moment de la guerre d'Espagne, dans tous les pays qui n'étaient pas concernés directement par la guerre, on a créé des bureaux de recrutement. On a ouvert des bureaux de recrutement pour les brigades internationales. Et les gens qui voulaient aller se battre du côté des républicains espagnols s'engageaient, puis ils partaient en Espagne, et là, ils pouvaient se battre selon leurs convictions. Et donc, il faut ouvrir dans les banlieues des bureaux de recrutement pour les brigades internationales islamiques. Et on dit aux jeunes qui veulent se... Vous aimez Badlanen? Vous êtes pour? Vous êtes sensible au combat, au juste combat de... Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, voilà, c'est très simple. Tenez, vous signez là et vous allez vous battre. Mais attention, il faut quand même leur indiquer, parce qu'il faut être honnête, que entre l'islam de France et l'islam d'Afghanistan, il y a une très légère différence. Enfin, entre l'islam des banlieues, de la banlieue parisienne et l'islam de la banlieue de Kaboul, il y a une légère différence. Par exemple, dans la banlieue de Kaboul, il n'y a pas beaucoup de McDo.
Il n'y en a même pas du tout, je crois bien.
Il n'y a pas beaucoup de voitures à brûler. Il n'y a pas beaucoup de magasins Lacoste pour taxer de la sape. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de nuit. Il n'y a pas beaucoup de tribunaux pour aller violer les petites boîtes dans aux toilettes des tribunaux. Donc, c'est quand même moins rigolo qu'en France. C'est beaucoup plus facile d'être un Ben Ladeniste du côté de Sarcelles que du côté de Kandahar. Voilà, il faut leur dire. Hein.
Au sujet de l'Afghanistan, si vous me permettez un petit aparté pour un peu apporter un peu d'ironie dans cette émission un petit peu triste. Donc depuis que les Américains ont commencé leur frappe, j'ai écouté sur une radio d'État le bilan des frappes américaines. Alors ils ont réussi depuis qu'ils ont commencé leurs opérations de bombardement, le tour de force de bombarder un bâtiment de la Croix-Rouge, de bombarder un bâtiment de l'ONU. Là, ils viennent de toucher une mosquée, une maison de retraite. Ils ont bombardé leur propre troupes alliées du côté donc de l'Alliance du Nord, et lorsqu'ils ont envoyé à l'offensive les Ouzbeks du général Dostum, les Ouzbeks ont été obligés de se replier parce que les Américains avaient oublié de leur envoyer les munitions. Donc je me dis que Hot Shot, le film fameux film parodique avec Charlie Sheen, c'était pas un film parodique, c'était un documentaire sur l'aviation américaine.
C'était un documentaire d'anticipation. Oui, Philippe, et puis après oui, le courrier.
Je voudrais changer un petit peu de sujet. Enfin, pas tout à fait. Vous allez voir que ça sert. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que j'étais venu à votre antenne, il doit y avoir 3 semaines à moi, j'avais donné comme piste pour expliquer la volonté de guerre des Américains, la guerre n'était pas encore déclenchée, le problème du pétrole des républiques ex-soviétiques du nord de l'Afghanistan. Bon. Donc, j'en avais parlé à l'antenne, je l'ai publié dans ma lettre d'information La Politique, et j'ai eu la surprise de voir, c'était la première fois que je voyais dans le Monde, parler de ce sujet, le Monde, de nombreux articles dans le Monde d'il y a 2 jours, parlant du sujet, mais en disant, mais non, ce n'est pas à cause du pétrole. Ils expliquaient qu'effectivement, il y avait des richesses, qu'il y avait des compagnies américaines qui s'étaient investies pour les plans pour tracer des oléoducs, etc. Donc, ils expliquaient tout ça, et in fine, ils disaient, ah non, mais c'est pas pour le pétrole. Alors, une fois de plus, on prend les gens pour des crétins.
Ok, il y a des moments où on se demande si on n'a pas un peu raison de prendre les gens pour des imbéciles, hein, parce que
en majorité, oui.
Statistiquement, on est quand même plus sûr de tomber juste.
Parce que je tiens à préciser aussi qu'il n'y a pas que le pétrole en Asie centrale. Il faut voir par exemple que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan sont respectivement, je crois, aux dernières statistiques, les 2e et 3e producteurs mondiaux d'uranium. Le Kazakhstan, c'est 30 ou 40% des réserves de chrome du monde. Identiquement pour le manganèse, pour le cobalt. Et donc, c'est tout un réservoir qui convient aussi bien donc dans les minéraux que dans le pétrole. Le pétrole de Exxon de Monsieur Rockefeller, Steinhauser et les métaux de la Rio Tinto Zinc de Monsieur Rothschild.
Là, tout ça, c'est dans la stratégie de. C'est
dans le recueil de stratégie
de ou pour de ceux qui s'intéressent.
Voilà, ou pour ceux qui s'intéressent aux productions mondiales et à toutes les questions économiques et de production mondiale, le petit jeu de société fabriqué par les publications Rio Tinto.
Pour nos auditrices, je tiens à souligner que jusqu'à il y a pas tellement longtemps, l'essentiel du lapis lazuli qu'on pouvait acheter en Égypte venait d'Afghanistan.
C'est une des plus jolies pierres qui soit.
Ce qu'il y a de fascinant vraiment dans ces événements actuels, c'est qu'on nous refait exactement à la virgule près le même scénario qu'on nous a fait au moment de la guerre du Golfe.
La guerre du Golfe,
bah, ça a marché.
Exactement
alors.
La même chose.
Hier, un ancien directeur de la CIA a fait une interview dans, je crois, le Herald Tribune ou je ne sais plus quelle revue que j'ai lue, dans laquelle il dit « Nous commençons à accumuler les preuves de la responsabilité de l'Irak dans les attentats du 11 septembre et préparons des représailles contre l'Irak. »
Alors, ouais, c'est intéressant ce que vous dites bien là, sûr. Parce que, justement, on commence à faire état de deux groupes de pression aux États-Unis, un groupe de pression dit modéré qui serait représenté par le général le secrétaire d'État
Colin Powell,
exactement, et alors les faucons
Rumsfeld
qui en voilà Rumsfeld et l'autre Mitch machin chouette
Ça reste la même tribu.
Oui, c'est exactement la même tribu, vous m'avez compris, mon cher. Blague à part, c'est tout de même curieux, on les trouve toujours là.
C'est les Apaches.
Quand il s'agit alors, ce qu'ils veulent, c'est terminer le travail sur l'Irak.
De toute façon, on les avait déjà vus en 1898 dans la guerre contre l'Espagne, en 1914 pour la première, en 1939-40 pour la seconde, au Vietnam.
On va arrêter de dire du mal des Américains, peut-être. Parce que moi, je suis gêné parce que...
J'ai beaucoup de sympathie pour les paysans du Nebraska. Voilà.
Alors, les messages...
D'autant qu'il y a des Américains, genre David Duke, qui posent remarquablement bien le problème.
Pat Buchanan n'est pas mal non plus.
Oui, mais David Duke, il a un site, d'ailleurs, tout le monde peut le consulter. Il dit très clairement les choses.
Vous avez votre bon Américain, vous, alors.
On a tous notre bon Américain.
Alors, Victoria, entre autres choses. Je vous écoute.
Je suis policier dans le Val-de-Marne, policier à la retraite. Je m'associe aux propos de Serge de Beckett. Je n'irai plus aux manifs de policiers, car je suis dégoûtée. Maintenant, c'est plein de communistes et de socialistes. Que ces syndicats repoussent le MNR et le Front National m'écœure. Salutations à Serge de Beckett, dont l'émission est appréciée par les vrais policiers. Un autre auditeur, l'article du Parisien, où l'on parlait de la jeune fille violée, précisait que le prénom Samia de la victime n'était pas le sien. Cet auditeur affirme que selon les renseignements, cette jeune fille serait d'origine européenne. La France est le pays qui a le plus grand nombre de policiers par habitant.
Ça, si c'est la vérité, c'est énorme. Hein. Ah oui. Je demande à cet auditeur de prendre contact avec moi au Libre Journal, 4 Place France Litz, parce que si c'est la vérité, c'est énorme. Étant donné effectivement que le Parisien a donné le prénom de cette jeune fille, l'a appelée Samia, en précisant que c'était un prénom inventé pour protéger l'anonymat de cette jeune fille, et il est évident que si on lui a attribué un prénom évidemment maghrébin, alors que c'est une jeune fille.
En fait, derrière la Samia, il y avait une Sabine.
Ça, c'est énorme. Ça.
C'est pour masquer la chose.
Ah oui, mais ça, c'est extrêmement grave. Là, il y aurait une manipulation médiatique, pire encore que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Oh non, ça peut pas être pire que ce
qu'on a vu. C'est d'un vicieux incroyable.
La France est le pays qui a le plus grand nombre de policiers par habitant. 1 pour 288. Or, police, municipale et gendarmerie. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas maintenir l'ordre dans ces conditions?
Qu'il n'y a pas les ordres.
Et d'abord, il n'y a pas d'autre. Puis en plus, je voudrais dire que c'est pas comme ça. Comme les statistiques, vous savez, c'est comme les bikinis, ça cache l'essentiel. Il faut bien comprendre que si vous le dites, un policier pour 288, ça paraît très peu. Ou ça paraît beaucoup, enfin c'est comme vous voulez. Mais si vous dites qu'il y a 288 personnes pour un policier, comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose? Quand vous êtes tout seul en face de 288 types, vous ne pouvez rien faire. C'est impossible. Il faudrait pratiquement un policier par personne.
Par habitant. Vous devriez aussi parler des militaires qui circulent dans le métro. Ils sont accompagnés d'un policier. Cela me fait rire.
Oui, mais ils sont toujours trois. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y en a un qui sait lire, un qui sait écrire, et le troisième pour surveiller les deux intellectuels.
Oh. C'était le KGB, ça.
Vous oubliez que la police et l'armée sont aux ordres du gouvernement. Elles sont obligées d'obtempérer.
Pas toujours, parce qu'on l'a bien vu avec les gendarmes de l'Élysée.
Et puis, c'est ce que je dis, obtempérer. Il y a une façon d'obéir aux ordres. D'ailleurs, maintenant, je signale que la loi ne couvre plus l'exécution des ordres illégaux. Donc, l'exécutant a le devoir de réfléchir avant d'exécuter, ce qui est la fin d'ailleurs de toute discipline dans les armées. Le gars doit se dire, est-ce que l'ordre qu'on m'a donné correspond à ce que sentimentalement j'ai envie de faire?
D'autant plus qu'on nous a assez bassiné en montant en épingle le devoir de désobéissance incarné par le colonel de réserve de Gaulle.
Voilà.
Je vous signale que pendant la guerre, j'étais à l'orphelinat Saint-Charles à Paris. J'ai contracté la maladie du charbon qui donne des anthrax. Ce sont d'énormes furons qui viennent toujours par série.
Oui,
j'en ai
pareil.
Eu 7 aux jambes, etc.
Cela s'est
passé sans antibiotiques.
Non, c'est pas la même chose. L'anthrax, c'est une... France, ça s'appelle anthrax. Le charbon et l'anthrax sont deux choses différentes. Et le mot anthrax qu'on utilise en France pour les furoncles groupés n'a rien à voir avec la maladie de l'anthrax.
C'est un streptocoque doré. Ça fait l'odeur.
Moi, j'y connais rien, mais le docteur Plancard doit savoir de quoi il parle.
Il y a 3 ans, il y a eu 265 cas de charbon en Espagne. Ce fut soigné de manière classique, sans difficulté, sans publicité et sans intervention des journalistes, c'est-à-dire sans affoler les populations.
Alors là, je vais faire encore du mauvais esprit. Oui. Si les Américains bouffaient un peu moins de saloperies, de chips, de pop-corn et ne buvaient pas autant de Coca-Cola plein de sucre, et ils développeraient moins de saloperies au niveau de la peau.
Je parle à mon fils. Émeric, tu écoutes ce que dit le docteur?
Voilà, en fait, c'est Ben Laden qui a mis l'anthrax dans la gomme arabique du Coca-Cola. Voilà.
Toujours la même maladie, il existe un médicament très simple en homéopathie, anthracinome, qui coûte 12 francs dans les bonnes pharmacies.
Anthracinome,
je ne suis pas sûre que ce soit toujours la même. Bon, je suis mariée avec un Chinois du Cambodge. Je tiens à vous signaler que les Chinois votent à droite et même MNR et Front National.
Enfin, des Chinois.
Pas généraliser non plus.
Si tous les Chinois votaient Le Pen, on serait au pouvoir depuis longtemps. Ils sont combien? 60 milliards, les Chinois.
Il n'y aurait plus de péril jaune.
Oui.
Les refuges militaires talibans ressemblent à des casemates en torchis. Leur terrain d'aviation a des chemins vicinaux bretons de la fin du 19e siècle.
Ça peut faire plusieurs
Je
manios,
me demande
ça.
Ce que les Américains bombardent encore depuis le début des frappes.
Oui, ça c'est vrai. Ça.
Mais ce qu'ils veulent, c'est s'installer sur place pour les raisons que je donnais tout à l'heure, que j'ai données il y a un mois.
Et actuellement, ils sont en train de s'enferrer parce qu'ils sont pris dans un dilemme. Il faut qu'ils frappent suffisamment longtemps pour pouvoir mettre en place un gouvernement fantoche et qu'ils n'arrivent pas à mettre sur pied. Et si jamais ils frappent trop longtemps, eh bien, ils vont se mettre à dos la coalition qu'ils essayent de mettre sur pied.
Exactement.
Alors, il nous reste 2 minutes pour pouvoir liser les messages.
Depuis le 11 novembre, la tension est singulièrement montée entre Israël et Palestiniens. On tire à l'arme lourde de part et d'autre et cela me trouble
quelque peu. Part et d'autre, c'est beaucoup dire.
Quelque peu.
Je dirais que c'est plutôt à sens unique.
Les Palestiniens ont beaucoup d'armes lourdes.
Enfin, j'ai pas vu beaucoup de Merkava du côté des Palestiniens.
Et le nombre des morts d'un côté.
Ils ont peut-être des pierres très lourdes en revanche, qui lancent avec des gros lance-pierres, ça c'est possible.
S'il est vrai que 99% des musulmans sont certainement des gens pacifiques, il n'empêche qu'il en reste 0,1%, soit 6 000 individus sur 6 millions de musulmans.
Et les 0,9%.
Et 6 000. Homme, c'est une armée.
Et les 09
qui alors là, on pourrait s'interroger sur la responsabilité, parce que à qui est-ce la faute, tous ces crimes? À ceux qui les commettent ou à ceux qui les ont fait venir et nous les imposent?
Alors. Non, ça c'est des nouveaux.
Bon, alors.
On change de sujet.
On va changer de sujet dans 2 minutes. Et Henri de Fersin, un dernier mot?
Oui, un dernier mot, juste pour rappeler aux auditeurs les livres qui ont été cités, que j'ai cités pendant l'émission. Le prix et l'endroit où on peut se procurer les livres.
Alors, pas le Nord. Hein,
voilà, exactement. J'ai une famille à nourrir. Les 4 volumes de stratégie. Alors là, c'est promotion spéciale pour l'émission. Donc là, c'est une occasion qui se reproduira pas. Les 4 volumes de stratégie, donc vous pouvez vous les procurer pour 300 francs. Donc là, il contient tout ce qu'il faut savoir sur la politique étrangère pour comprendre ce qui arrive en ce moment. Le racisme anti-français que j'ai cité pour les affaires de Tournante, donc il est au prix de 184 francs. L'imposture antiraciste est à 234 francs, comme le suivant, le mensonge antiraciste qui va paraître prochainement. Et le jeu de société que j'ai évoqué, Monopole, est au prix de 300 francs. On peut se le procurer aux publications Henri de Fersan, boîte postale 18, 63 670, Le Cendre.
Merci Henri. Mon commandant, Pierre-Henri Bunel, vous publiez donc un livre intitulé
Menace islamiste. Voilà, c'est aux éditions Carnot. Il devrait être normalement dans le courant de la semaine prochaine dans les librairies.
Et toujours, Philippe Loncard-Assac, votre lettre nationaliste, qui est, elle n'est pas écrite, je vous le signale, avec de l'eau de rose. Hein.
Elle est très bonne. Hein.
Merci. Bah, écoutez, la vie est courte. Si on perd son temps en circonvolution, c'est pas la peine. Ou c'est la vérité, ou c'est faux. Si c'est faux, il faut le démontrer. Si c'est vrai, il faut le publier et le transmettre. Voilà, c'est ma position. Alors donc, je vous rappelle le titre de cette lettre d'information des cercles nationalistes français que j'anime. Le titre, c'est « La politique », c'est mensuel. L'abonnement est de 200 francs par an. Et vous pouvez écrire à l'adresse suivante, CNF, boîte postale 5508-238, 83 097, Toulon-Cedex. Je répète ?
Oui.
Donc, je répète l'adresse, CNF, c'est-à-dire les initiales de Cercle Nationaliste Français, boîte postale 5508-238, 83 097, Toulon-Cedex.
Merci, chers amis, et à bientôt sur cette antenne. Alors, vous venez d'entendre une petite musique de liaison. Et cette petite musique de liaison a été interprétée par Monsieur Bernard. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que Monsieur Bernard est en face de moi. Monsieur Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis combien de temps travaillez-vous ? Mettez-vous bien près du micro, s'il vous plaît. Depuis combien de temps travaillez-vous le piano ?
Ben écoutez, il y a deux réponses à cette question. C'est avec notre ami Pierre, ici présent, professeur de piano depuis un peu plus d'un an. Et puis sinon, j'ai pratiqué le piano il y a cela un certain nombre d'années dans une méthode beaucoup plus classique.
Bien. Alors donc, vous avez compris que je reçois ce soir Pierre-Marie et trois de ses élèves. J'aime bien recevoir Pierre-Marie parce que c'est un homme qui m'a fait découvrir, je l'ai déjà dit, un bonheur extraordinaire, qui est le bonheur d'être devant un piano, un pas tout à fait comme une poule devant un couteau. Et bon, je suis pas devenu un virtuose pour autant, c'est pas encore cette année que je vais faire le Pleyel, mais je m'amuse bien avec mon petit piano.
C'est le principal.
Et je n'embête personne. Il faut dire que je joue dans mon bureau tranquillement et avec des écouteurs et tout comme ça. Pas de bruit, ça ne gêne personne. Mais c'est un plaisir immense. Et chaque fois que j'ai invité Pierre, je vous ai déjà invité deux fois, ça a suscité beaucoup d'intérêt de la part des auditeurs. Et c'est pourquoi, en dépit, alors je sais que je vais recevoir des messages en disant comment le monde vacille sur ses bases et vous invitez un pianiste. Ben oui, parce que de toute façon, la musique durera plus longtemps que l'humanité probablement. Et puis c'est quand même une belle façon de... Oui, parce qu'il y aura de la musique même quand il n'y aura plus d'hommes. La musique des sphères, la musique des ruisseaux, la musique de la nature, c'est déjà bien quand même. Et c'est un merveilleux moyen de se changer les idées et surtout de se remettre les idées en place et de se rapprocher des priorités. Donc, j'ai demandé à Pierre de revenir, cette fois-ci avec trois élèves, Bernard, Nicole et Charles, qui vont chacun nous dire pourquoi ils ont voulu essayer cette méthode et quel plaisir ils y ont trouvé. La raison pour laquelle je leur ai demandé de venir, c'est d'abord que je crois que vous avez tous eu connaissance de l'existence de cette méthode par Radio Courtoisie.
Exactement. Et nous en sommes extrêmement reconnaissants.
Voilà. Il y a même un tout jeune homme qui est Charles, qui a appris l'existence de cette méthode par son papa, je crois, qui écoute Radio Courtoisie. Voilà, prêtez votre micro, Victoria, vous êtes gentille.
Non,
alors prenez l'autre, voilà. Prenez l'autre, la technique pousse des hurlements, mais on va s'arranger.
Non, pitié, tout. Oh là là.
Voilà, on est en train de tripoter les micros, ça sème la panique. Allez-y, je vous écoute, Charles. Comment avez-vous découvert la méthode, vous ?
Donc mon père écoute assez régulièrement Radio Courtoisie, et donc un jour on a entendu donc Pierre-Marie qui est passé, et suite à ce qu'il a dit, il nous a joué, je crois, quelque chose. Il a expliqué la méthode, parce que donc je l'avais commencé comme Bernard, une méthode classique il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, et puis c'est vrai que c'est un peu rébarbatif.
Vous étiez très réfractaire, je crois.
Hein. Oui, ça m'a pas plu, c'est ce qui m'a fait arrêter le piano, et c'est vrai que c'est dommage, et donc quand j'ai entendu une méthode, paraît-il différente, sans solfège, ça m'a attiré. J'ai demandé d'essayer. Je crois qu'il y a Pierre-Marie laisse trois cours d'essai pour voir si ça marche.
Ça
Au bout des trois cours, ça m'a...
Je peux ajouter que c'est une méthode extrêmement simple, très ingénieuse et très personnelle.
Alors, on va en parler. Merci, Nicole. On va en parler. Je me permets de vous appeler par vos prénoms, parce que ça simplifie la conversation. On va en parler avec Pierre. Donc, la première caractéristique de la méthode, c'est que c'est une méthode sans solfège. Vous ne prétendez pas enseigner la lecture.
Non, mais je ne fais pas de pianiste. Moi, je fais des gens qui s'amusent au piano.
C'est ça.
Ils se prennent pas au sérieux. Il n'y a pas de vanité. Il y a l'humilité de s'amuser au piano, c'est tout.
Et
c'est convivial dans le cadre familial, avec les amis. Quand vous avez une réunion d'une soirée, les amis sont plus proches des feuilles mortes ou de mélodies que d'écouter. Ils sont beaucoup moins aptes à écouter du classique. Bon, alors c'est beaucoup plus convivial et jovial, quoi.
Oui, c'est sûr que pour les voisins, c'est plus agréable que d'entendre des gammes à tire l'arigot.
Bien sûr, moi les gammes, j'en ai pas besoin. Pourquoi ? Parce que les mélodies contemporaines que j'apprends, même des mélodies de valeur comme Michel Legrand, les mélodies n'ont pas besoin de virtuosité comme pour jouer du Chopin ou du Mozart ou du Bach, qui est fantastique. Donc les doigts se mettent naturellement en place, faut pas me raconter d'histoire. En plus de ça, moi je joue que dans deux ou trois tonalités. N'oubliez pas qu'il y a 12 tonalités dans la musique occidentale, et que moi j'en choisis que 3, je joue en do, en fa ou en sol, et pendant les premiers mois on ne joue qu'en do, parce que en do il n'y a pas de touche noire, et avec les noirs c'est toujours plus compliqué, même dans la vie d'ailleurs.
Enfin, alors quelle est la base de la recette?
La base de la recette, c'est des conventions entre l'élève et moi, c'est-à-dire que par exemple je mets des inscriptions sur les notes. Je mets des numéros, ce qui permet un repère immédiat. C'est pour ça qu'à la troisième leçon, même à la seconde, on peut jouer Douce France ou Sur ma vie. La recette est extrêmement simple. Et elle n'a pas besoin de complications.
Mais la méthode, c'est quoi ?
La méthode.
Pratiquement. Comment ça se passe ? Je voudrais que vous expliquiez comment ça se passe quand vous donnez votre première leçon.
Donc, disons à la première leçon, je développe la main gauche. C'est la main gauche qui est pour moi... Vous savez que en musique, la main droite limite la main gauche, alors que la main gauche illimite la main droite. Ça, je pourrais en faire toute une théorie là-dessus. Bon,
vous pouvez déjà l'expliquer un peu, rentrer un peu plus dans le... Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous entendez par là ? Bon, par là, j'entends pas grand-chose.
Je prends un exemple tout simple. Si je joue au clair de la lune, je vais avoir deux accords.
Mm-hmm.
Peut-être trois. Donc... Si je compose un morceau comme au clair de la lune, je limite la main gauche à trois accords.
Ah, c'est ça. Vous voulez dire que quand on joue la mélodie de la main droite, on a une quantité
limité d'accords
ben
possibles.
Oui, puisque la main gauche accompagne ce que vous avez fait
voilà.
à la droite.
En revanche, quand on joue trois accords de la main gauche, on a une quantité 10, 12, illimitée de mélodies.
Parce que les grands classiques ont fait ça. Les grands classiques sont partis d'un thème, d'une structure harmonique. Ils font des variations, ce qu'on appellerait en contemporain des couplets différents. Des variations, ils reviennent au thème central. Donc, pour moi, les grands compositeurs à message ont exprimé leur sentiment, leur émotion, à travers une structure harmonique, c'est-à-dire la main gauche, point. La main droite est venue après.
Alors, on apprend la musique, la grande musique, d'une façon classique, on apprend l'harmonie, on apprend le contrepoint...
Pas forcément. Vous pouvez, au conservatoire, je crois savoir, suivre une classe d'harmonie pour ça. Mais il y a très peu de concertistes qui ont fait de l'harmonie. C'est surtout les orchestrateurs qui ont fait de l'harmonie. L'harmonie telle que je l'enseigne, elle est très simplifié. Comme il y a trois couleurs de base qui permettent une infinité de couleurs, vous savez qu'en harmonie, il n'y a que trois accords de base. Le premier, c'est celui que j'appelle le passif, c'est-à-dire qu'il indique la tonalité, ça peut être un do mi sol. Le deuxième, c'est un accord actif, ça veut dire qu'au lieu d'avoir que trois doigts, il a quatre doigts.
Micro.
Il faut essayer de vous approcher du micro.
Voilà, je m'approche
Montez-le.
Du micro. Voilà. Alors, le premier a trois doigts, écoutez bien. Le premier a trois doigts, c'est un son, il n'indique rien. Bon, celui qui le précède, qui le fait valoir, c'est papa, maman. Cet accord, quand vous l'entendez, ça vous donne l'indication qu'il y a une suite. D'ailleurs, si vous vous souvenez, toutes les finales, beaucoup de finales de classiques, c'est ça. Si vous restez là-dessus, ce que j'appelle une harmonie d'attente, les gens vont rester assis dans leur fauteuil jusqu'à ce que vous fassiez. Donc, oui, c'est déjà deux harmonies. Et la troisième, c'est celle qui remet en cause. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais dites donc...
Il faut dire que les notes que vous accrochez, parce que vous jouez dans des conditions épouvantables.
Oui.
Avec un clavier posé sur la table.
Oui. Alors, non, mais je veux dire par là que vous pouvez me dire, et les auditeurs que je salue en passant peuvent me dire, oui, mais vous êtes fous, là. Vous n'allez pas me dire qu'avec trois accords, on fait toute la... Mais oui. Mais à ces trois accords s'accroche ce qu'en classique on appelle des accords relatifs, moi, ce que j'appelle des accords jumeaux. Curieusement d'ailleurs, un accord majeur, son jumeau sera mineur. Et là, on tombe dans l'androgynie, l'équilibre des deux genres.
Un exemple.
Do majeur et La mineur sont androgynes, sont relatifs, sont jumeaux.
Ne vous laissez pas aller regardez, vos fantasmes.
Je fais un Do.
Gnostique.
Je fais un La mineur. C'est un mineur au son. Et l'autre, c'est un majeur. Si je les joue ensemble... Je vous demande d'arriver à séparer, c'est impossible.
C'est exact.
C'est impossible.
C'est juste.
Non seulement c'est juste, mais c'est imbriqué l'un dans l'autre. Alors, il n'y a pas seulement que dans les 12 tonalités que les trois accords et leurs relatifs. Il y a également des accords encore plus complets, plus complexes. Quand vous faites un do mi sol, vous avez un accord. Si vous ajoutez un si bémol, ça sera un accord de septième. Si vous ajoutez un ré, ça sera un accord de neuvième.
D'accord. Bon, on va pas prendre un cours.
Mais je veux dire, l'harmonie est très simple. Bon.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est à partir de combien de leçons commence-t-on à s'amuser? Alors, je vous pose pas la question à vous, je voudrais la poser à Nicole, à Bernard et à Charles. À partir de combien de leçons avez-vous commencé? Vous, Charles, vous aviez déjà fait du piano selon la méthode rose, la bonne vieille méthode traditionnelle.
Ah non, mais j'ai pris quelques cours de méthode rose. Et puis, dans les cours avec Pierre-Marie, au bout de... du troisième cours à peu près, donc il m'avait déjà appris Blue Moon, Stormy Weather, enfin des petits morceaux, je les jouais simplement quelques accords, mais c'est agréable, c'est motivant de voir qu'au bout de trois cours on sait déjà jouer quelque chose et ça donne envie de continuer.
Ah, mais dès la première leçon, on arrive à jouer quelque chose dès la première leçon.
On va écouter ce que vous faisiez, ce que vous faites maintenant. Vous avez commencé quand, Nicole?
À peu près pareil, une année scolaire, disons.
On va écouter ce que fait Nicole aujourd'hui après un an de leçon.
Oui.
C'est assez tôt quand même en un an, je trouve.
Oui, et encore, j'étais très ému d'enregistrer devant le micro. Mais habituellement, je le joue avec plus d'aisance.
Alors, qu'est-ce que ça vous a procuré ?
Oh, une joie immense. Je me mets au piano avec un plaisir croissant. Tous les jours. Il a fallu que j'attende l'âge de la retraite pour me mettre au piano. Mais je ne regrette.
Vous n'aviez jamais fait de piano avant ?
Si, un peu. Avec une méthode classique. J'ai commencé à l'âge de 40 ans, ce qui était déjà trop tard pour commencer du classique. Mais au début, je ne m'en suis pas mal tiré parce que j'en faisais beaucoup. Et puis je n'ai pas pu soutenir le rythme. Donc j'ai tout perdu. Maintenant, je joue tous les jours avec plaisir et j'ai l'impression que je ne perds plus.
Elle fait même des soirées.
Je fais des soirées, bien sûr.
Elle fait même des soirées de piano avec des amis. Tout le monde chante, c'est magnifique.
Est-ce que ça a des effets, l'expression va paraître forte, mais des effets thérapeutiques? Est-ce que vous sentez que votre vie a changé?
Ah, ça me détend énormément. C'est ça, c'est exactement. J'ai deux activités depuis ma retraite qui me détendent énormément. C'est celle-ci et le pilotage. J'ai appris à piloter.
Les avions?
Ah oui. Ces deux activités me plaisent énormément.
Ouais. Charles, vous êtes un tout jeune homme, donc vous nous avez dit que vous aviez commencé le piano comme les enfants commencent le piano par la méthode rose, puis ça vous avait un peu ennuyé. Vous avez découvert le plaisir du piano là.
Bah oui, c'est vrai que avant je n'avais pas vraiment eu plaisir quoi. Je faisais ça par routine, on avait le cours, moi j'ai eu que très peu de cours, mais
est-ce que ça vous a apporté quelque chose, je dirais sur le plan social par exemple, est-ce que vis-à-vis de vos camarades est-ce que vous leur jouez du piano quand ils viennent vous voir, est-ce qu'il vous arrive de leur montrer ce que vous savez faire?
Oui, bah c'est fréquent, surtout que j'ai des amis qui jouent aussi, qui et donc on aime bien jouer ensemble, on fait des, c'est vrai que ça détend, même le soir quand je rentre des cours, j'aime bien aller faire un peu de piano. C'est vrai que j'en joue tous les jours, quoi. Ça m'occupe, ça me détend surtout. Comme
ce qui est formidable, c'est qu'on peut harmoniser ses propres morceaux.
Oui, voilà. Oui.
Voilà, c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai harmonisé des tas de morceaux.
On écoute une mélodie, on la met.
Alors vous, Bernard, vous madame Nicole, vous êtes en retraite, vous nous l'avez dit. Charles est étudiant. Vous je suppose, étant donné votre âge, vous travaillez.
Je suis ni en retraite ni étudiant, malheureusement. J'ai une activité à temps plein, largement dépassée.
Et vous arrivez quand même à travailler?
Oui, alors ça se concentre beaucoup sur les vacances, les week-ends, mais néanmoins, je peux pas dire que je m'efforce, mais j'ai grand plaisir le soir, une demi-heure, une heure de battement, passer au piano et puis à me détendre. Et ce que j'aimerais ajouter par rapport à nos amis, c'est que je crois que la méthode de Pierre, elle a cet énorme mérite de libérer. Elle libère l'instinct d'avoir envie de jouer de la musique. Alors on est coincé avec une méthode classique face à un piano où on s'en sort pas de la technique, de la lecture, du solfège, tout ça, même si ça peut être utile. Mais Pierre, en ce qui me concerne, en tout cas personnellement, il m'a complètement libéré du jeu de piano. Le jeu de piano, pour moi, c'est plus un problème.
Alors, il y a une chose que je peux dire, puisque moi, j'ai pris des cours aussi, et j'ai trouvé un plaisir immense à pouvoir m'amuser, tout simplement. Et là, on comprend mal, quand on n'a pas essayé, comment ça peut marcher sans notes, comment on peut travailler un morceau sans notes. Alors, il faut dire que le système, c'est tout simplement... Les noms des notes sont écrits sur une feuille de papier, en deux lignes. Sur la ligne du haut, c'est la main droite. Donc, vous savez que vous devez faire un sol, un do, un ré, etc. Et la ligne de gauche vous indique
les accords.
Des accords qui sont numérotés. Accord numéro 1, accord numéro 2, 3, 4...
On finit quand même par savoir que c'est du La mineur, que c'est du Ré majeur.
Ah oui, c'est ça, au début, 1, 2, 3, 4...
Progressivement...
Je cultive la mémoire inconsciente.
Voilà.
Moi, je marque 1, 2, 3, 4. Mais en dessous, c'est marqué la mineur, de
oui,
etc. Alors, à force de le voir, on finit par s'habituer.
Absolument.
Et après, j'enlève le 1, 2, 3, 4.
Voilà.
Alors, je vous poserai, Bernard, la même question que j'ai posée à Nicole. Est-ce que ça a des effets thérapeutiques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti quelque chose qui changeait en vous du fait que vous commenciez à pouvoir vous amuser avec un piano? Est-ce que vous vous sentez plus... je sais pas, plus heureux, plus calme, plus détendu quand vous êtes...
Je sais pas si je suis plus heureux, plus calme. Ce qui est certain, c'est que ça a eu un effet psychologique, thérapeutique très fort sur moi, parce que j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours envie de jouer de la musique, du piano, je joue un peu de saxophone parallèlement, et puis mon grand regret à titre musical, c'est de ne pas avoir monté un orchestre avec des copains, comme pourraient le faire des gens plus jeunes. Et ben, j'ai pas manqué d'orchestre là, mais je me retrouve face à un piano, et puis je m'amuse et je me distrais, ça peut durer 2 heures, 3 heures. Et donc ça a eu un effet thérapeutique.
Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est pacifiant?
Ah oui.
Là, quand on est énervé, oui, quand il y a une tension, quand on est fatigué de quelque chose, on va au piano et
très pacifiant.
J'ai beaucoup de PDG qui font le piano uniquement pour se détendre. Hein.
Ouais. Et est-ce que c'est... Alors là, je pose une question à Charles. Est-ce que... Dans les rapports avec les jeunes camarades, c'est intéressant. Est-ce que vous arrivez parce que de mon temps, c'était la guitare. On apprenait Jeux Interdits, et puis ça, on allait voir les jeunes filles, on leur disait, on faisait un petit morceau de Jeux Interdits, et normalement, ça apportait des résultats. Ouais. Avec le piano, c'est moins facile, parce que se promener avec un piano, c'est sur une plage le soir, pendant un feu de camp, le piano, c'est moins pratique.
C'est sûr qu'on n'emmène pas son piano toujours avec soi, mais bon, j'ai la chance d'avoir comme Pierre-Marie un orgue, enfin un synthé, et donc bah ça me permet, par exemple, quand on part en vacances, je peux l'emmener, etc. Et donc ça m'arrive souvent, oui, de jouer devant des amis, ça rejoint à peu près le...
C'est ça. Mais vous jouez pas, je vous interdis.
Si, j'ai appris,
donc ça va, les traductions sont...
C'est bon. Une jeune fille que vous aviez trouvée si jolie,
oui,
et qui jouait, eh bien c'était la fille de Bernard.
Ah oui, c'est elle qui m'a présenté.
C'est ça, donc c'est en famille.
Et l'épouse de Bernard, qui n'avait jamais touché un piano, j'ai fait un pari avec Bernard, il m'a dit non, t'arriveras pas. Et au bout de 3-4 mois, elle s'est mise à jouer.
Ouais, des activités professionnelles intenses, elle a lâché
un peu, mais vraiment, elle a réussi à jouer.
Maintenant, ça ronge. Alors, je voudrais que vous faites jouer, c'est des choses comme, des choses de Trenet, de Legrand, de choses comme ça. Ce qui marche maintenant chez les jeunes, c'est le rap et la techno, par exemple.
Oui, mais moi, je suis anti-rap et anti-techno parce que le rap, c'est de l'agressivité provocatrice. La techno, ça réveille, ça éveille l'instinct animal de l'individu. Moi, ce qui m'intéresse avec les jeunes, c'est de leur offrir le choix. C'est-à-dire, ils aiment le rap, ils aiment la techno. Bon, maintenant, vous allez faire avec moi et vous ferez le choix après. Et quand ils découvrent le déclenchement des émotions, des mélodies que je leur propose ou qu'ils ont envie de jouer, eh bien, ils découvrent que la musique mélodieuse et mélodique a un effet sur eux beaucoup plus important que le rap et que la techno, qui sont des organisations volontairement faites pour déstabiliser la jeunesse et les entraîner dans des endroits et dans des idéologies mauvaises.
Pardon de l'interrompre, Pierre. Oui. Pardon de t'interrompre, mais il est très modeste parce qu'il faut l'entendre jouer un boogie.
Une
musique barbare d'il y a quelques dizaines d'années, c'est pas si vieux que ça. On a cassé les 10 Elvis Presley à la radio américaine, il n'y a pas si longtemps que ça.
Enfin, il y a
quand
même plus de
musique. Pierre est capable de jouer un boogie comme il est capable de jouer un rap.
Mais il y a une mélodie dans un boogie.
Je ne sais pas, Pierre, mais nos débats boogie n'intéressent pas les auditeurs, j'en suis sûr.
Il reste 4 minutes.
Alors, je voudrais donner un tuyau, justement.
Oui, donner un
tuyau. Parce que la dernière phase de l'enseignement, après la composition, pour ceux qui veulent, l'improvisation, l'harmonisation, la transposition, il y a l'interprétation. Et je vais vous donner un tuyau à ceux qui s'amusent au piano et qui jouent des chansons comme ça d'oreille. Si vous voulez interpréter, il y a une chose de base. Quand vous jouez, au lieu de donner libre cours à vos doigts qui vont vite ou pas vite ou trop vite, vous chantonnez en vous-même la chanson et ça vous guidera automatiquement sur la vitesse à prendre dans l'interprétation. C'est ça. Et quant aux élèves espions, parce qu'il y en a, j'ai un très bon pendule parce que je sais les repérer tout de suite. Et en plus de ça, s'ils croient qu'à la troisième leçon ils vont connaître tout le procédé, ils peuvent pas. Moi, c'est une progression pédagogique.
Oui. Voilà, écoutez, alors il y a des messages. Donnez-nous les messages.
Je remercie Serge Lebecquet de m'avoir donné l'occasion de rencontrer M. Pierre-Marie, qui est mon professeur de piano.
Ça, c'est la famille.
Je suis Jean. Non, c'est bien. Je suis Jean de Fontenay-sous-Bois. Je suis retraité. Ça fait un an et demi que je suis cette méthode. C'est un grand plaisir de pouvoir jouer aussi rapidement sans avoir appris le solfège.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre?
Attends, ça va venir.
Ah bon,
j'ai travaillé avec Pierre-Marie. Sa méthode est très efficace. Il se met au niveau de ses élèves. J'ai une très mauvaise vue. Avez-vous écrit une méthode? Ça, c'est des questions. Sur quel piano jouez-vous? Vous répondrez après.
Non, il n'a pas écrit de méthode, il joue sur n'importe quel piano.
Apprenez-vous l'indépendance des deux mains?
Sur un piano avec deux mains.
Fatalement, ça vient petit à petit, ça. Ouais. L'indépendance des mains, c'est...
Une personne aveugle peut-elle suivre cette méthode?
Absolument, j'ai fait cette expérience il y a quelques années, c'est fabuleux. Et vous savez ce que je faisais pour le repérer? Sur le bord du piano, en face du dos, je mettais une punaise. En face de tous les dos.
C'est sympa.
et au toucher, elle a pris l'habitude. Et pour faire l'octave, elle a appuyé le petit doigt sur le dos à côté de la punaise. Et elle savait qu'avec tel écartement, elle avait l'autre dos. Merci. Elle a réussi à jouer. J'ai eu beaucoup de mal, hein, beaucoup de patience.
Alors j'ai deux critiques tout de même. Ah. Ce n'est pas sérieux tout ça. Prenez des œuvres de Chopin ou de Liszt et vous ne pourrez plus nous affirmer que la main gauche est limitée par la main droite. Il faudrait trouver un autre mot pour définir ce que vous enseignez, mais ça n'est ni du piano ni de la musique.
En tout cas, ça fait plaisir.
Et le deuxième,
la responsabilité.
Et le deuxième, pourriez-vous nous préciser le pourcentage de voisins qui ont déménagé dans l'immeuble au bout d'un an? Dommage,
je peux témoigner que certains de mes voisins des étages du dessus, que j'ai rencontrés après, m'ont dit « Mais c'est vous ce monsieur chez qui on entend tant de musique agréable ?» Et ma fille et moi-même jouons sur les instructions de Pierre.
Et ça, il y a des pianos à casque maintenant. Il y a des claviers d'orgue à casque, mais il y a des pianos, Yamaha et autres, à casque. Il y a des Italiens qui ont fait des casques.
Oui, bien sûr.
Bon, alors donc, il n'y a pas besoin.
Et un dernier auditeur fait beaucoup de compliments et termine en disant « Ma retraite est ainsi rendue plus riche et plus active. Je vais continuer cette année à bénéficier de la formation de M. Pierre-Marie, qui est un professeur dynamique et un fin pianiste au répertoire très étendu. »
En plus, c'est un personnage qu'il faut découvrir, car
c'est un François qui vous dit ça.
C'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Je le dis parce que maintenant on est devenu amis et c'est vraiment quelqu'un. Hein, je crois qu'on est tous d'accord.
Une question.
Oui.
Voulez-vous nous donner nos coordonnées pour apprendre le piano?
On va dire ça après. Mais je voudrais qu'on écoute quand même le morceau que Charles a enregistré.
C'est important. C'est du cachou.
Pas mal, ça, dites donc. Combien de temps de travail?
C'est au bout d'un an, et puis là, j'ai eu le morceau il y a une semaine, que j'ai travaillé cette semaine, et puis on l'a enregistré tout à l'heure dans l'après-midi.
Très bien. Alors, pour tout renseignement sur la méthode, je vous répète ce que je dis à chaque fois, le plus simple, Daniel va m'arracher les yeux, mais tant pis, il faut téléphoner au Libre Journal, c'est la seule solution qu'on ait trouvée.
Et vous laissez votre numéro de téléphone.
Et laissez un numéro de téléphone, et on vous rappelle, 01 45 23 51 01, et vous dites, c'est pour les leçons de piano, et je transmettrai votre numéro de téléphone à Pierre-Marie qui vous appellera.
Bonne soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquetch. Il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, deuxième partie d'émission préenregistrée le 22 septembre 2001 et émission diffusée mercredi 24 octobre 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ah, pour cette deuxième partie, je reçois Monsieur Labenéry, et ensuite vous entendrez une conversation que j'ai enregistrée avec Monsieur Angelo Palego, qui a retrouvé l'Arche de Noé. Non, mais ça vous fait rire, mais c'est vrai, Monsieur Labé.
Ah, je crois.
J'espère que vous vous en réjouissez.
Bien sûr.
Parce que c'est une très belle histoire, vous verrez. Avant, je voudrais faire une petite... lancer une idée, enfin deux idées plus exactement, à propos du prix d'Audet. Je trouve que c'est une très très bonne idée de faire le prix d'Audet. Et je sais qu'il n'est pas d'usage de donner son candidat, mais moi je vais quand même vous donner le mien parce que je suis désobéissant. Moi je voterai pour Lugan. Ce serait un bon moyen de faire un pied de nez à ceux qui le torturent. Et puis en revanche, alors je vais proposer une idée qui n'est pas de moi, c'est un auditeur qui me dit c'est très bien de faire un prix d'Audet pour l'intelligence de la langue française, mais on pourrait faire aussi un prix pour la bêtise de certains, on pourrait l'appeler le prix Baudet. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors il propose des noms que je ne vais pas donner parce que je voudrais faire nulle peine à qui que ce soit. Mais enfin, ça me paraît une bonne idée de faire le prix Baudet pour les ânes. Voilà. Monsieur l'abbé, vous venez nous parler d'une initiative qui commence à prendre du poids, de l'importance, dont on parle de plus en plus, qui sont les rosaires pour la vie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit?
Oui, c'est une initiative prise par le docteur Villette, qui s'est occupé longtemps des croisades du Sacré-Cœur, et il fête justement ce mois d'octobre le 10e anniversaire de ces rosaires qui sont donc organisés dans les cathédrales les premiers samedis de chaque mois, ayant comme intention justement de réparer pour ce crime terrible qu'est l'avortement.
Alors, le 10e anniversaire, ça veut dire que cette année, ça prend donc une importance toute particulière.
C'est cela.
Comment ça va se manifester?
Alors, il y a eu déjà quelques manifestations dans d'autres lieux, mais c'est samedi prochain qu'il y aura donc le rosaire à Notre-Dame, à Paris. Et il y aura une messe ensuite à Saint-Julien-le-Pauvre.
Samedi, c'est-à-dire c'est le 27.
Samedi 27.
À quelle heure?
Alors, le rosaire à Notre-Dame à 17h et la messe après le rosaire à l'église Saint-Julien-le-Pauvre.
Je vais vous poser une question qui peut vous paraître un peu désobligeante, le prenez pas mal, mais est-ce que vous avez l'impression que la tradition, les prêtres de la tradition s'engagent suffisamment dans le combat pour la vie?
Non, pas assez, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et à votre avis, quelle est la raison de cette retenue? Est-ce que ça pourrait être un manque de temps ou est-ce que c'est des considérations plus...
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut insister justement davantage pour qu'il y ait un engagement plus fort de la part des uns et des autres.
En tout cas, je suis content de vous recevoir. Je sais que vous êtes, vous, particulièrement sensible à ce combat depuis longtemps. Vous êtes actuellement... vous desservez quelle paroisse, si j'ose dire?
Et c'est pas une paroisse.
Non, c'est pas une paroisse, bien sûr.
Mais... une petite chapelle qui se trouve rue de Grenelle,
oui,
dans le 7e, 86 rue de Grenelle.
Et vous célébrez donc à quel moment?
Alors, les mardis et les jeudis à 18h30... et le dimanche à 9h.
Je vous pose cette question parce que j'ai eu, si j'ose dire, des... Je ne sais pas comment dire ça sans vous mettre mal à l'aise, mais des compliments très vifs à votre endroit. Je sais que vous avez des fidèles qui sont extrêmement contents de vous avoir pour berger et qui vous aiment beaucoup. Vous venez d'Amérique du Sud ?
Du Mexique.
Du Mexique. Et comment, pour quelle raison le Mexique envoie-t-il des missionnaires en France? Est-ce qu'on en est aussi? Est-ce qu'on en est là?
Je crois que...
Non, c'est la fraternité, bien sûr.
De toute manière, en France, la crise au niveau du clergé n'est pas à démontrer, n'est-ce pas? Il est particulièrement sensible de tout point de vue. Mais effectivement, je suis venu en France suite à ma nomination dans le cadre de la Fraternité Saint-Pius. Mmh. Oui.
Alors, je vous réinviterai, là on est vraiment pris par le temps puisque j'ai un enregistrement et on peut absolument pas perdre une minute. Je vous réinviterai pour parler plus longuement parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, notamment sur votre sacerdoce et sur la situation du Mexique, qui est une situation intéressante dans ce domaine, particulièrement intéressante parce qu'elle ressemble un peu à la situation française aussi. Mais en attendant, on peut donc aller vous voir à la chapelle où vous célébrez rue de Grenelle. À quel numéro c'est?
86.
86 rue de Grenelle. Et puis, samedi 27, à Notre-Dame, rappelons-la, l'heure.
Oui, alors, le rosaire à Notre-Dame à 17h et la messe à Saint-Julien-le-Pauvre.
La messe à Saint-Julien-le-Pauvre.
Bon, ça sera vers 18h30, je suppose.
Très bien.
Voilà. Je peux vous donner un numéro de téléphone si vous avez
besoin de
me contacter. C'est le 01 46 22 60 08.
Vous voulez le répéter, s'il vous plaît?
Oui, 01 46 22 60 08.
Donc rosaire pour la vie à Notre-Dame samedi prochain à 17h. Et ben on vous attend nombreux. Et voilà, Sébastien et sa maman vous adressent toutes leurs amitiés. Vous voyez que la radio fonctionne aussi bien que le téléphone.
Très bien.
Merci monsieur l'abbé, à très bientôt.
À bientôt.
Voilà, et maintenant on va écouter donc cet entretien que j'avais enregistré. Ah non, vous voulez faire des annonces avant peut-être? Oui, oui.
On fait tout de suite?
Oui, est-ce qu'on a le temps? Oui, donc faites les annonces.
Alors, elle est un peu compliquée celle-là. Attention, je vais essayer de ne pas me tromper. Les samedis 27 et dimanche 28 octobre, à 15h, visite de la ville de Lannoy par Béatrice Balzac, guide de l'Association historique des Hauts-de-France, Gérine Gris. Durée du parcours à pied, 1h15. La ville de Lannoy jouxte celle de Roubaix. Ensuite, le deuxième salon du livre historique, avec la participation de nombreux historiens, aura lieu dans les salons de l'hôtel de ville de Lannoy, au premier étage, de 11h à 18h le samedi 27 et de 10h à 18h le dimanche 28 octobre. Il y aura un bar avec etc., entrée gratuite. Bon, vous pourrez à ce moment-là rencontrer, parmi les historiens participant au salon, François-Marie Algout, entre autres. Daniel Raffard de Brienne, spécialiste du Saint-Sper que vous avez l'habitude d'entendre chez nous, et Michel Constantin Verspirène.
Ah, très bien. Voilà, eh bien, nous allons maintenant écouter cet entretien avec Monsieur Palego, Angelo Palego, à propos de l'Arche de Noé. Partie d'émission est enregistrée puisque notre invité ce soir est un chercheur italien qui est de passage à Paris pour quelques jours seulement et qui ne pouvait pas se libérer pour une émission en direct. Donc vous ne pourrez pas poser de questions en direct, mais selon la formule consacrée, si vous voulez écrire, poser des questions à Monsieur Palego, vous pouvez écrire, on lui transmettra vos lettres. Monsieur Angelo Palego est ingénieur, il est ingénieur conseil en chimie, mais c'est pas la raison pour laquelle je l'ai invité. Je l'ai invité parce que, tout simplement, Monsieur Angelo Palego a trouvé l'Arche de Noé. Il l'a trouvé à l'endroit où tout le monde la cherchait depuis longtemps. c'est-à-dire le mont Ararat. Et il est venu me voir avec une documentation qui est tout à fait étonnante et qui est définitive. Je dirais qu'il n'ouvre pas la porte à la moindre contestation. Il a fait faire des maquettes qui sont devant moi, et qui sont d'ailleurs superbes. Une maquette de l'arche et une maquette des lieux, une maquette des deux Ararat, le grand et le petit Ararat. Et on va bavarder avec lui, et il va nous raconter comment il a fait cette découverte, et à partir de quels éléments il a retrouvé cette arche de Noé, qui est probablement un des objets les plus célèbres de notre histoire, à la fois historique, si j'ose dire, et spirituelle. Monsieur Palégo ne parle pas le français. Donc nous avons demandé à Madame de Cointet de nous servir d'interprète, et ça sera donc une émission un petit peu particulière. C'est rare qu'on fasse ça, mais exceptionnellement on peut se le permettre. Vous aurez une traduction, non pas simultanée, mais suivie, parce qu'en simultané c'est très difficile techniquement. Monsieur Palégo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est une question évidente. Comment, pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'Arche de Noé? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette recherche?
Perché io sono uno studente della Bibbia e nel 1985 ho deciso di andare a cercare l'Arca di Noè. I primi studi che ho fatto sulla Bibbia, ho compreso che la Bibbia mi dava le coordinate precise dove l'arca di Noè è sulla montagna.
Je me suis intéressée à l'arche de Noé parce que je suis un chercheur et en 1985, j'ai voulu trouver l'arche de Noé et je suis montée sur la montagne parce que j'ai pensé que la Bible me donnait les coordonnées précise, exacte, du lieu où se trouvait l'arche de Noé.
C'est donc à partir de la Bible, et en prenant la Bible comme un guide, en quelque sorte, si j'ose dire un guide touristique, que vous êtes arrivé à un endroit où vous vous attendiez à trouver l'arche de Noé.
Sì, e infatti, studiando la Bibbia, i capitoli 6, 7 e 8 della Genesi, ho potuto capire, in base alla conformazione geografica delle due montagne dell'Ararat, il grande Ararat alto 5.165 metri, il piccolo Ararat alto 3.925 metri, con i versetti della Bibbia, della Genesi, capitolo 8, ho potuto stabilire a che altezza, con una proporzione matematica, a che altezza l'arca si era fermata dopo il diluvio.
J'ai étudié les chapitres 6, 7 et 8 de la Genèse et j'ai compris que d'après ceci et vu la configuration géographique des montagnes, je pouvais avoir un guide sûr pour trouver cette arche. Les monts Ararat sont deux, le grand Ararat qui a plus de 5000 mètres, le petit Ararat qui n'a que 3925 mètres, et j'ai compris que d'après le chapitre 8 de la Genèse, j'avais une indication tellement précise que j'ai décidé de faire cette recherche.
Vous nous avez dit que c'était par proportion mathématique que vous aviez retrouvé l'emplacement exact de l'arche. Comment avez-vous pratiqué mathématiquement?
Perché nel capitolo 8 della Genesi, al versetto 4, dice che l'arca, dopo 150 giorni dall'inizio del diluvio, il diluvio è avvenuto il 2 di novembre del 2370 avanti Cristo, dopo 150 giorni l'arca si è fermata sul monte Ararat. Dopo 73 giorni che era ferma, la Bibbia dice in Genesi 8:4 e 8:5 che Noè ha visto le cime dei monti. Quindi, avendo visto le cime dei monti dopo 73 giorni, siccome le montagne sono solo due, è chiaro che lui era fermo sulla montagna più alta.
Alors, d'après le chapitre 4, on dit que le déluge, après le déluge, après le début du déluge, 150 jours, Noé s'est arrêté. Donc, il s'est arrêté sur une montagne. Le déluge ayant commencé le 2 novembre 2370 avant Jésus-Christ. À partir du moment où il s'est arrêté, il a attendu 73 jours. Et après ces 73 jours, d'après le chapitre 8 de la Genèse, au verset 4 et 5, Noé, de l'unique fenêtre, a vu les deux monts Ararat.
Alors, ce qui est très surprenant dans ce que vous venez de nous dire, il y a beaucoup de choses très surprenantes. La première, c'est que vous nous dites le déluge a commencé le 2 novembre 2370 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi, enfin, d'une telle précision?
Perché in, ai tempi di Noè il calendario iniziava il 15 di settembre, il primo mese, stando alla Bibbia, iniziava il 15 di settembre. Quindi i mesi, ce lo dice la Bibbia, nel capitolo 6, 7 e 8 della Genesi, i mesi erano di 30 giorni. Quindi il primo mese andava dal 15 settembre al 15 di ottobre. Il secondo mese iniziava il 16 di ottobre. La Bibbia dice che nell'anno 600 della vita di Noè, Genesi capitolo 7 versetto 11, nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 giorno del mese, caddero le acque del diluvio. Il 17 giorno del mese, iniziando il 16 di ottobre, cade il 2 di novembre. E non è casuale. Perché il 2 di novembre in tutto il mondo si festeggia la festa dei morti, in Italia, in Francia, in Europa, nel mondo cattolico,
ma
anche in Cina, anche in Giappone, anche in Sud America. Quando gli spagnoli sono arrivati in Sud America hanno trovato gli originali, i popoli sudamericani che festeggiavano la festa dei morti il 2 di novembre. Perché? Perché tutti si ricordavano, quando sono usciti dall'arca di padre in figlio, si tramandavano il ricordo delle acque cadute del diluvio universale il 2 di novembre.
Dans le chapitre 6, 7 et 8 de la Genèse, on sait que les mois commençait du 15, l'année commençait le 15 septembre et les mois avaient 30 jours. Dans la 600e année de la vie de Noé, le chapitre 7 de la Genèse nous dit que au verset 17, le déluge commença le deuxième mois, le 17e jour, et Noé avait 600 ans. Donc, si on calcule, ça fait exactement le 2 novembre. Et ce n'est pas un hasard, parce que dans tous les pays du monde, même les pays qui ne sont pas catholiques, le 2 novembre est le jour où on célèbre les morts. Et les Espagnols, quand ils sont arrivés en Amérique latine, ils ont, à leur stupéfaction, ils ont vu que les indigènes, les Incas, célébraient le 2 novembre la fête de leurs morts, parce que c'est une révélation qui s'est transmise de père en fils depuis le premier jour du déluge. Tout le monde se rappelait cette date fatidique.
Ça, c'est un autre aspect encore des recherches de M. Palégo qui est tout à fait intéressant. C'est que il démontre en quelque sorte, cette réflexion, l'universalité du déluge qui avait été mise en cause par beaucoup de commentateurs, beaucoup d'exégètes de la Bible, qui ont dit le déluge est peut-être un événement qui s'est déroulé dans les environs de la Mésopotamie, mais ça n'est pas un événement universel. Il y a eu probablement plusieurs déluges, etc. Et là, cette date du 2 novembre tente à démontrer qu'il y a eu bel et bien un déluge universel qui a affecté la totalité de la planète, puisque vous nous dites que ça a affecté également l'Amérique du Sud, on sait qu'il y a eu un déluge. On le sait notamment par les recherches archéologiques et par le fait que le lac Titicaca, par exemple, présente les caractéristiques d'un lac diluvien. Mais là, c'est une preuve, en tout cas, c'est un élément de preuve, d'après l'Écriture, qui est tout à fait intéressant.
Non è fantasia, l'arca di Noè è una realtà. Dopo il diluvio l'arca si è fermata a 4.800 metri d'altezza sul grande Ararat. Il 2 luglio 1840 l'Ararat è un vulcano, è esploso, l'arca si è spezzata in due pezzi. Il pezzo più grande, lungo più di 100 metri, è sceso a 4.300 metri d'altezza. L'11 luglio 1989 io ho camminato sopra questo pezzo di arca a 4.300 metri d'altezza. Ma un francese, mio carissimo amico Fernand Navarra, nel 1955 aveva trovato una trave di legno molto vicina da dove io ho trovato i tre piani superiori dell'arca. E sempre Fernand Navarra con suo figlio Raphael nel 1969 con una spedizione americana aveva trovato altri cinque pezzi di legno molto vicini dove io ho trovato i resti dell'arca.
L'arche s'est arrêté a 4.800 mètres d'altitude sur le grand Ararat. Mais l'Ararat est une montagne, c'est un volcan, une montagne volcanique. Et le 2 juillet 1840, il y a eu une explosion volcanique qui fait que l'arche s'est cassée en deux morceaux. Le plus grand morceau de plus de 100 mètres est descendu à 4300 mètres. Le 11 juillet 1989, j'ai moi-même marché sur ce morceau d'arche. Et mon grand ami Fernand Navarra, avant moi, en 1955, avec son enfant Raphaël, avait trouvé des morceaux de poutre à peu près dans la même zone. Et il est retourné avec une expédition américaine en 1969. Toujours à peu près dans ce même endroit, à 4300 mètres.
Alors, vous nous avez dit, l'arche a été brisée lors de l'éruption volcanique du 2 juillet 1840. Un morceau de plus de 100 mètres s'est séparé d'un autre morceau de 56 mètres, et à peu près 56 mètres. Et ça nous donne, si je sais compter, la taille de l'arche de Noé, d'après vous, serait de 156 mètres. Ce qui est gigantesque, puisque c'est plus grand qu'un terrain de football. Vous dites, d'autre part, dans les résultats de vos travaux, que l'endroit où l'arche s'est posée, c'est une espèce de petit plateau au flanc du mont Ararat, du grand Ararat, qui fait la taille de 16 terrains de football. Donc, l'arche fait 156 mètres de long. Quelle largeur fait l'arche?
L'arca è lunga 156 metri, larga 26 metri,
26 metri di largo,
e alta 15 metri, come un palazzo di 5 piani.
15 metri di haut, come un palazzo di 5 etaggi.
Enorme, enorme, grandissima. Ha un volume di carico di 62.000 metri cubi.
62.000 metri cubi.
Equivalente a 800 carri ferroviari. Come
800 vagoni di chemin de fer.
Enorme, grandissimo. Solo un diluvio universale con le acque alte, più alte del Monte Ararat, potevano portare questa enorme imbarcazione a quell'altezza. Solo il diluvio universale.
Donc seul un diluvio universale est capable de porter une telle masse à une telle hauteur, puisque la hauteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est 4300 mètres, à peu près au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est évidemment gigantesque. Avez-vous fait des calculs sur la question de la flottabilité de cet objet en imaginant qu'il soit rempli d'animaux, parce que À votre avis, quel pouvait être le poids en charge? Est-ce qu'on peut imaginer le poids en charge de l'arche?
L'arca, io ho dei modellini, qui in studio abbiamo un modellino in scala 1 a 200, ma a casa ho un modellino in legno in scala 1 a 100. Sono venute a casa mia molte televisioni di tutto il mondo. Abbiamo messo questo modellino in acqua, nel fiume, nella corrente del fiume. L'arca è inaffondabile, perché la lunghezza di 300 cubiti, come ci dice la Bibbia nella Genesi, capitolo 6, versetto 15, la lunghezza di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti, cioè il rapporto lunghezza-larghezza di 6 a 1, rendeva l'arca inaffondabile. Ora dobbiamo chiederci come ha potuto Mosè, che ha scritto la Genesi nel deserto del Sinai, come ha potuto indovinare il migliore rapporto scientifico tra lunghezza e larghezza?
On pense que Moïse n'était probablement pas un grand architecte naval, enfin pour autant qu'on puisse imaginer, c'est pas la réputation qu'il a. Vous voulez traduire?
Oui. Alors j'ai chez moi une maquette de 1 centième. Cette maquette est en bois et on l'a mise dans le courant d'un petit fleuve. Et on a fait des expériences, on a fait tout ce qu'on pouvait imaginer. Et on s'est aperçu que ce rapport extraordinaire de 300 coudées sur 500 coudées, comme la Bible...
Sur 50.
Sur 50 coudées, comme la Bible l'explique au chapitre 6, verset 15, est le meilleur en absolu de tous les rapports mathématiques. Parce que le vaisseau ou l'objet qui a ces proportions-là est insubmersible, on ne peut pas le retourner.
Mais avez-vous une idée du poids que ça représentait? Vous nous avez dit le volume était de 62 000 mètres cubes.
62 000 mètres cubes, il volume di carico dell'arca.
Maintenant, quel poids peut-on imaginer?
Il peso dell'arca circa 3.200 tonnellate.
3.200 tonne a vide.
Vuoto o pieno?
Vuoto, l'arca vuoto. Poi naturalmente Noè ha dovuto portare dentro tutti gli animali, tutto il cibo, perché Noè con la sua famiglia erano 8 persone in tutto. Noè, i suoi figli Sem, Cam e Jafet, le mogli dei figli e la moglie di Noè, 8 persone, hanno portato dentro tutti gli animali, sono rimasti dentro l'arca 370 giorni. Naturalmente ha dovuto portare dentro il cibo per gli animali e anche l'acqua da bere per gli animali per tutto il tempo che sono rimasti nell'arca.
L'arche contenait 8 persone. Donc ils sont restés 360.
Ces 8 personnes étaient Noé,
alors,
sa femme.
Ces 8 personnes étaient Noé, sa femme, Cam, Sem, Japhet et leurs propres épouses.
Et il y a une chose qu'il faut. Je vous redonne la parole tout de suite pour continuer la traduction. Mais moi, il y avait une chose qui m'intriguait dans la Bible, c'était le fait que Noé soit parti sans ses parents, si j'ose dire, enfin, sans son père, par exemple. Alors, on sait que chez les patriarches de la Bible, on vivait facilement 900 ans, 1000 ans. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les généalogies et j'ai essayé de voir qui des aïeux ou des parents de Noé étaient encore vivants au moment du déluge. Parce que je voulais comprendre qui il avait laissé en quelque sorte se noyer, lequel de ses parents il avait laissé se noyer. Or, on découvre que Noé est pratiquement le premier des patriarches qui, à l'âge de 600 ans, n'avait plus son père. Donc, il n'avait plus de parents au moment du déluge.
Naturalmente, nell'arca sono entrati solo coloro che hanno avuto fede che realmente stava per avvenire il diluvio, perché fino ai tempi di Noè non era mai piovuto. La Bibbia dice che un vapore saliva dalla terra e innaffiava. Quindi quando Noè costruiva l'arca e diceva che sarebbe venuto un diluvio, tutti ridevano, non credevano alle parole di Noè. Evidentemente gli altri parenti di Noè non hanno creduto, non hanno avuto fede in quello che Noè stava dicendo. Quindi nell'arca sono entrati soltanto Noè, i suoi figli e le mogli dei figli.
Dans cette arche ne sont entrés que ceux qui y croyaient, parce qu'avant le déluge, il n'y avait pas de pluie, une espèce de vapeur sortait de la terre et arrosait la terre et la bonifiait. Donc ne sont entrés là que ceux qui ont vraiment cru, puisque l'arche a été construite pendant très longtemps, et tout le monde se moquait pendant ce temps-là de Noé qui disait qu'il allait pleuvoir. C'était une chose impossible et ridicule. Donc ne sont entrés là-dedans que ceux qui étaient vraiment au pouvoir de Noé, à savoir sa femme, ses fils et les femmes de ses fils.
Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, dans cette arche, il a fallu faire d'abord entrer la nourriture nécessaire à ces 8 personnes, l'eau nécessaire à ces 8 personnes, parce qu'il y avait des réservoirs. J'ai cru comprendre que toute une partie de l'arche était constituée de réservoirs pour de l'eau potable.
Nel modellino dell'arca che abbiamo qui in studio c'è un doppio fondo. Sul basso c'era la riserva d'acqua, 1.550.000 litri d'acqua. Questa era l'acqua per gli animali. Una famiglia di curdi è entrata nell'arca e ha visto un sistema idrico per portare l'acqua da un punto a un altro dell'arca, fatto con budella di animali e stomaci di grandi animali, molto più grandi degli elefanti. Prima del diluvio c'erano i dinosauri. Noè ha usato un sistema idrico fatto con budella di animali e stomaci di animali per portare l'acqua da un punto all'altro dell'arca. Prima del diluvio tutti gli animali erano erbivori, gli uomini erano vegetariani, gli animali erano erbivori, per cui Noè ha portato dentro l'arca come cibo soltanto fieno, paglia per dare da mangiare agli animali, granaglie per mangiare lui, frutta secca per mangiare lui stesso e la sua famiglia. Quindi nessun problema per l'alimentazione.
Double fond de l'arche, il y avait 1.550.000 litres d'eau qui servait à abreuver les animaux.
Et la
famille de Noé. Il y avait une famille kurde qui est descendue dans le double fond et il a vu un système hydraulique très intelligent fabriqué avec des boyaux d'animaux et des estomacs d'animaux plus grands que des éléphants. À l'époque du déluge, il y avait des dinosaures, donc probablement Noé s'est servi d'estomacs et de boyaux de dinosaures pour faire des sortes de canalisations, de systèmes hydrauliques. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, tous les animaux étaient herbivores et que les hommes étaient végétariens. Donc il fallait amener du foin, de la paille, des graines et des fruits secs pour la famille de Noé.
Oui, il faut rappeler que dans la Bible, quand après le déluge, Dieu permet aux hommes de manger la chair des animaux, ce qui leur était interdit jusqu'au déluge. Donc effectivement, toute l'alimentation était végétarienne jusqu'au déluge. C'est simplement après le déluge qu'elle devient carnivore. Et ce qui est très intéressant, c'est que le docteur Plantel, que j'invite souvent dans cette émission, a étudié ces questions et a trouvé des explications scientifiques tout à fait médicales, plus exactement, tout à fait intéressantes à ce changement de régime. Les raisons pour lesquelles il est devenu indispensable à l'homme de manger une alimentation carnée après le déluge. Alors, vous nous avez dit que une partie de l'arche de Noé est restée en place, qu'une autre partie a basculé, et vous nous avez apporté, et je les ai sous les yeux, des photographies de cette arche, de ce qui reste de cette arche. Alors c'est tout à fait troublant parce que ça ne laisse place à aucun doute. C'est-à-dire qu'on voit la photographie d'un objet qui ressemble tout à fait à la maquette que vous nous avez apportée, et que des aviateurs, d'ailleurs, ont pris, la première fois qu'ils l'ont vu, pour une grange. Une gigantesque grange qui aurait été construite à 2000 ou 3000 mètres d'altitude sur une montagne où il n'y a absolument rien. Il y a du rocher et des scorpions. 4000 mètres d'altitude au milieu des rochers et des scorpions. On ne voit pas tellement l'utilité d'une grange de ce genre. Et vous nous dites ensuite qu'une famille kurde a accédé à l'arche, qu'elle est entrée dedans et qu'elle l'a visitée. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous-même vous êtes allé plusieurs fois jusqu'à l'arche. Pourquoi n'y êtes-vous pas entré vous-même?
La famiglia di curdi che è entrata nel pezzo dell'arca che è nella gola di Aora. Nella gola di Aora c'è un pezzo dell'arca lungo 56 metri, ma nella gola di Aora è molto, molto difficile. Io ho tentato due volte nel 1998, ma non ci sono riuscito. Nessun alpinista al mondo è riuscito ad entrare nella gola di Aora. Questa famiglia di curdi, il padre con alcuni figli, sono riusciti, però due figli sono morti, perché è in una posizione incredibile, impossibile. Non ho fatto vedere le foto, ho qui le foto di dove si trova questo pezzo, ed è impossibile. 10 giorni fa io ho fatto 17 spedizioni sul monte Ararat, 10 giorni fa ero ancora sull'Ararat e abbiamo fotografato nella gola di Aora, ma è impossibile entrare. Il pezzo dell'arca e quello nella gola di Aora è più visibile. Il pezzo dell'arca dove io ho camminato sopra è a 4300 metri d'altezza, ma questo pezzo è quasi sempre coperto dal ghiaccio, per cui non sono potuto entrare dentro. Nel 1917 i russi sono entrati in questo pezzo dell'arca.
La famille kurde qui est entrée dans l'arche est entrée dans la partie de l'arche de 56 mètres qui se trouve dans la gorge de Ahora. Et c'est un endroit extrêmement difficile, extrêmement périlleux. Deux fois de suite, en 1998, j'ai moi-même essayé d'y aller, mais c'est absolument impossible. Ils sont montés là, le père et plusieurs de ses enfants. Mes deux fils, ils sont morts. Et il y a 10 jours maintenant, j'ai fait 17 ascensions, mais je n'ai jamais réussi à aller dans ce morceau de la gorge de Ahora. Je suis montée à 4300 mètres dans un autre endroit, et pourquoi je n'ai pas pu entrer moi-même dans l'arche, c'est que le grand morceau de plus de 100 mètres est pratiquement recouvert toute l'année par des glaces, et on ne peut pas entrer dedans. Cependant, en 1917, un aviateur russe a vu les choses, et le tsar avait envoyé deux détachements de militaires qui eux-mêmes sont entrés dans l'arche.
Alors, il faut que j'identifie, effectivement, vous êtes sur, vous écoutez Radio Courtoisie, je reçois aujourd'hui Monsieur Angelo Palego, qui est ingénieur chimiste, et qui a retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat. Cet entretien enregistré est traduit par Madame de Cointet.
Et ringrazio tutto il pubblico di questa radio, Radio Courtoisie, per l'attenzione mostratami. Oggi e domani avrò due conferenze alla CESCE qui a Parigi e farò vedere tutta la documentazione fotografica in mano che dimostra che ho trovato l'arca di Noè.
Alors, Monsieur Palégo nous dit qu'il remercie les auditeurs de Radio Courtoisie et Radio Courtoisie de l'accueillir, les auditeurs de l'écouter, et qu'il donnera une conférence pour le sécher. On en reparlera. Malheureusement, vous ne pourrez pas aller à cette conférence puisque cette émission sera diffusée après la conférence. Mais je pense que vous pourrez acheter auprès du sécher des cassettes ou un compte-rendu de cette conférence. J'en profite pour donner l'adresse du sécher où vous pourrez vous procurer cette documentation. Le sécher, c'est le cercle scientifique et historique. C'est un cercle scientifique et historique qui, j'en ai parlé souvent, trouve, établit des liens entre la science et la foi, et qui travaille à démontrer que l'écriture, par exemple, n'est pas une fantaisie, mais est un récit authentique d'événements qui se sont réellement déroulés. C'est une organisation qui est composée de scientifiques de très haut niveau et qui propose de nombreuses activités, des conférences, des cassettes et de la documentation. Alors le sécher, c'est boîte postale 51, 59 731 Saint-Amand, Cedex. Également, le sécher a un site internet qui est www.chez.com/sécher. C-E-S-H-E, le tout en minuscule. Alors revenons à l'Arche de Noé, Monsieur Palégo. Vous nous avez dit que un de vos amis français, Monsieur Novara, était allé visiter les lieux et avait rapporté des morceaux de bois prélevés sur l'arche, qui semblaient provenir de l'arche. Avez-vous fait faire des études en laboratoire sur la nature de ce bois et sur sa datation? Et dans ce cas-là, est-ce que ces travaux confirment l'écriture?
Sì, il mio amico Fernán Navarra ha trovato il legno nel 1955-1969, lo ha fatto analizzare da quattro istituti di fama mondiale, l'Istituto delle Industrie Foreste di Bordeaux, l'Università di Parigi, l'Università di Madrid e il Museo del Cairo. Questi quattro istituti hanno confermato che il legno trovato da Navarra ha quasi 5.000 anni. Il diluvio è avvenuto il 2 di novembre del 2370 avanti Cristo, cioè circa 4.370 anni fa. Quindi il legno di Navarra conferma precisamente la cronologia biblica.
Donc il y a eu quatre expertises qui ont été faites dans différents endroits qui sont de renommée mondiale, un au musée du Caire, un à l'université de Madrid, un à l'université de Paris et un autre à l'institut des bois anciens, et les quatre expertises ont été concluantes, à savoir que ces bois remontent à environ 5000 ans. Si on pense que le déluge a eu lieu en 2370 avant Jésus-Christ, il faut voir que ce bois remonterait à 4370 ans, ce qui corrobore les dates bibliques.
Est-ce qu'on a pu identifier l'essence?
Il legno trovato da Navarra, analizzato, è quercia di rovere e pino resinoso. Questo tipo di legno tutt'oggi cresce lungo la vallata dell'Eufrate. L'arca di Noè si presuppone che sia stata costruita lungo la vallata dell'Eufrate, circa 800 chilometri in linea d'aria dal monte Ararat.
Le bois que Fernand Navarra a rapporté et qui a été analysé est du chêne rouvre et aussi du pin résineux. Ces deux essences se retrouvent dans la vallée de l'Euphrate et c'est dans la vallée de l'Euphrate qu'on pense que l'arche de Noé a été construite, et en fait elle se trouve à 800 kilomètres à vol d'oiseau de l'Ararat.
Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir fait ces recherches, Monsieur Palégo. Des équipes américaines ont travaillé également. Et je me souviens d'avoir vu à la télévision un documentaire sur une équipe américaine qui travaillait sur l'Arche de Noé, qui pensait avoir trouvé l'Arche sous la glace, et qui notamment, avec un appareil permettant d'étudier les modifications du magnétisme, avait identifié la forme de l'Arche grâce à des manifestations magnétiques qui tendaient à démontrer que du fer qu'on supposait être le fer des clous ayant servi à fabriquer l'arche, se trouvait à des traces de fer se trouvaient à sous la neige, sous la glace, disposées selon la forme supposée de l'arche, à des distances les unes des autres, ces traces de fer, qui tendaient à montrer que c'était bel et bien ça suivait le rythme des poutres de l'arche. Ces chercheurs américains disaient également qu'ils avaient trouvé à proximité de l'endroit où ils croyaient avoir identifié l'arche des villages qui portaient des noms surprenants. Par exemple, il y avait un village qui s'appelait le village du Corbeau, un autre village qui s'appelait le village de la Colombe, ce qui tendait à, naturellement, ce qui ramenait à l'écriture, puisqu'on sait que Noé a envoyé d'abord un corbeau pour essayer de voir si la terre était de nouveau émergée, et le corbeau n'est pas revenu. En revanche, ensuite, il a envoyé une colombe qui, elle, est revenue en portant un rameau dans son bec. Alors, est-ce que les travaux de ces Américains portent sur le même site que le vôtre ?
Sì, gli americani hanno fatto molte ricerche, molti di questi americani sono miei amici, siamo in contatto. Il ritrovamento a cui lei si riferisce è quello sul monte Tendurek, a 30 chilometri di distanza dal monte Ararat, verso il confine con l'Iran. Questo ritrovamento fatto da Ron Wyatt è a 1950 metri di altezza, ma non ha niente a che fare con l'arca di Noè. Le misure trovate sul terreno, perché ci sono dei segni sul terreno, non corrispondono a quelle della Bibbia. Le misure trovate da Ron Wyatt di questi segni sul terreno sono lunghe 157 metri e larghe 42 metri. Invece la Bibbia ci dice che è larga 26 metri, quindi il rapporto lunghezza-larghezza non è quello della Bibbia, ma quel ritrovamento di Ron Wyatt ha a che fare con un fortino militare bizantino.
Oui, effectivement, ces recherches des Américains sont intéressantes. Il y a aussi, en ce qui concerne les villages, Ahora, on a parlé de la gorge de Ahora, ça veut dire plantation de la vigne, et un autre village qui s'appelle Jugement universel. En ce qui concerne les trouvailles de cette équipe d'Américains qui sont mes amis, ils concernent en fait un fortin byzantin. Les mesures de ce fortin ne sont pas les mêmes. Elles sont de 157 mètres par 42 mètres, tandis que la Bible nous dit que l'arche de Noé avait 156 mètres par 26 mètres. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Ensuite, le mont sur lequel ils ont trouvé ces choses-là se trouve à 30 km de l'Ararat et à 1950 mètres de hauteur.
Ça ne correspond pas du tout.
Ça ne correspond pas.
Alors, ce qui est intéressant dans ce travail de recherche de l'Arche de Noé, c'est que, au fond, l'Arche fait partie des croyances des trois peuples du livre, comme on dit, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et donc, on pourrait penser qu'il pourrait se développer autour de cette recherche une collaboration entre les trois religions, mais aussi entre les chercheurs et mouvements politiques ou les gouvernements de la région, que ce soit le gouvernement turc ou le gouvernement arménien, encore que le mont Ararat est en territoire turc entièrement, et que les traces de l'arche que vous avez trouvées sont en territoire turc, est-ce que vous avez reçu de la part des autorités locales de l'aide, ou au contraire, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans vos travaux?
Io ho incontrato molti, molti ostacoli perché l'Ararat è zona militare. Ho fatto 17 spedizioni e ho incontrato molti problemi perché sull'Ararat c'erano i guerriglieri del PKK di Öcalan e sono stato fatto...
PKK?
Yes. Sono stato fatto prigioniero due volte. Nel 1993 i guerriglieri di Öcalan mi hanno tenuto prigioniero per 27 giorni a 3500 metri di altezza, proprio di fronte all'arca. Il governo turco tiene la montagna ancora oggi chiusa. Questa estate dovevo andare con un elicottero, un tour operator di Milano mi aveva messo a disposizione un grosso elicottero russo, il Sikorsky da 20 posti, ma all'ultimo momento il governo turco mi ha negato i permessi, sono dovuto salire a piedi. Se fossi andato con l'elicottero avrei potuto fare altri lavori, con una trivella potere carotare e tirare fuori il legno attraverso il ghiaccio, ma non è stato possibile.
Oui, j'ai eu énormément de difficultés. Il faut savoir que l'Ararat est en zone militaire, en territoire turc. J'ai moi-même fait 17 expéditions, mais j'ai été fait prisonnier deux fois. Et en 1993, j'ai été prisonnier du PKK de Öcalan. Et je suis resté pendant 27 jours à 3500 mètres d'altitude. Et l'été dernier, un tour opérateur de Milan m'a offert la possibilité d'avoir un Sikorsky russe. Un hélicoptère Sikorsky russe de 20, où on pouvait contenir 20 personnes, et j'avais l'intention d'aller avec une tarière, de prendre des carottes de la Bible, de l'arche, mais les Turcs m'ont refusé la permission et j'ai dû y aller à pied.
Comment financez-vous vos travaux?
Con le mie tasche, mio denaro. Io non ho macchina, non guido macchina, solo bicicletta.
Fate delle economie.
Metto da parte 100.000 lire italiane ogni mese, e il mese di agosto, settembre, ho sufficiente denaro per mia spedizione. 17 volte fatto spedizioni sull'Ararat, 4 volte completamente da solo. Da solo, nessuno sapeva niente, neanche mia moglie. La prima volta sono andato sull'Ararat, mia moglie non sapeva niente. Ho detto a mia moglie, vado nelle Marche, centro Italia, io vivo nord Italia, centro Italia, vado a trovare mia madre. Sono andato a trovare mia madre. A mia madre ho detto, vado in montagna, non ho specificato quale montagna. Sono arrivato all'Ararat. Ho attaccato l'Ararat alle 9 di sera, notte, completamente notte, non sapevo niente di montagna, non avevo scarponi per la montagna, solo scarpe da tennis. Ho attaccato l'Ararat dopo un'ora prigioniero. Alle 3 di notte, stanco, dormivo, fucile qui sotto, prigioniero due curdi. Questa prima volta. Arrivato nella gola di Aora, scattate prime foto dentro gola di Aora, preso l'arca. Prima volta.
La prima fois.
La prima volta foto dell'arca.
Alors je finance mes expéditions avec mes propres deniers. J'économise 100.000 lire italiennes tous les mois. Je ne conduis pas et je me déplace en bicyclette. Donc, vu les dépenses que j'ai, j'y arrive très très bien. Je suis allée 4 fois tout seul à l'Ararat. La première fois que j'y suis allée, même ma femme ne le savait pas. Alors je lui ai dit, je vais aller dans les marches, dans les provinces des marches, voir ma mère. Alors je suis effectivement allée dans les marches voir ma mère, et j'ai dit à ma mère, je vais monter sur les montagnes. Je n'ai pas dit laquelle. Donc je suis allée sans chaussures de montagne, simplement en tennis, et je suis arrivée là, et j'ai commencé à attaquer la montagne à 9h du soir. Au bout d'une heure, j'ai été fait prisonnier par les Kurdes, mais ce premier jour, j'ai eu la chance de pouvoir photographier la gorge de Hahora.
Comment expliquez-vous que, par exemple, le Vatican ne vous aide pas dans ses recherches, ne finance pas vos travaux?
Ho spedito tutta la mia documentazione, tutto il mondo, tutto mio denaro per fotografie e francobolli, tutto il mondo. Ho mandato tutta documentazione Vaticano, musei, British Museum, Louvre Museum qui a Parigi, Chirac, mandato documentazione, Bill Clinton, tutta documentazione, Helsinki, la regina d'Inghilterra, regina d'Olanda, regina di Danimarca, re di Svezia, di Norvegia. A casa ho 97 lettere, 3 lettere di Clinton. Tutti mi dicono bravo, bravo, vai avanti, ma nessuno mi dà aiuto.
J'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour envoyer une correspondance, des rapports au British Museum, au Louvre, à Monsieur Chirac, à Clinton, à Eltsin, à la reine d'Angleterre, de Hollande, de Danemark et de Suède. J'ai reçu 3 lettres de Monsieur Clinton et toutes ces lettres me disent « Bravo monsieur, continuez », mais personne ne m'aide financièrement.
Est-ce que vous avez l'impression que vos recherches gênent, dérangent?
Faccio molte conferenze anche nelle università, ho fatto una conferenza nell'aula magna dell'Università di Venezia, all'Università di Pavia, faccio conferenze in Italia e all'estero, ma naturalmente l'Arca di Noè è terribile per la scienza, perché cambia tutto il modo di pensare, l'evoluzione sparisce. Agnostici, atei spariscono, l'arca fa riscrivere tutta la storia e tutta la scienza di questo mondo. E quando i professori all'università vedono la mia documentazione fotografica si mettono le mani nei capelli. Terribile.
Je fais beaucoup de conférences. J'ai fait une grande conférence à l'Aula Magna de l'Université de Venise, de Pavie. Mais partout où je vais, je rencontre auprès des scientifiques souvent le même accueil. Parce que effectivement, l'Arche de Noé est terrible pour la science. Elle est contraire à l'évolution. Les agnostiques, les athées disparaissent. Et les gens, quand je leur montre les photos, je donne la preuve évidente de tout ce que j'apporte. Je vois les savants se mettre les mains dans les cheveux, ils sont désespérés.
Alors j'ai sous les yeux, vous avez fait faire des maquettes qui sont d'ailleurs superbes. Il y a une très très jolie maquette, toute petite mais très jolie, des monts Ararat. Il y a une maquette également de l'arche sous la glace, enfin partiellement sous la glace, dont un morceau sort du glacier. Et c'est le morceau que vous espérez pouvoir visiter un jour. Et puis vous avez fait faire une maquette, alors au 200e de l'arche, une maquette complète qu'on peut ouvrir. Donc je vais essayer de la décrire. Ça se présente comme un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont de 6 sur 1, si j'ose dire, c'est-à-dire à l'origine 156 mètres de long, 26 mètres de large, 15 mètres de haut. Et quand on a cette maquette dans les mains, comme je l'ai en ce moment, votre maquette fait à peu près 60 cm de long sur donc ça doit faire 10 cm de large, absolument, et elle est entièrement démontable. Et alors on voit bien, effectivement, on imagine très bien qu'un objet de cette nature, un objet flottant parfaitement identifié de cette nature est très très difficile à retourner et que il peut flotter très très longtemps. Alors, ce parallélépipède rectangle est surmonté d'une galerie d'aération, c'est-à-dire vous avez le toit qui est plat, le toit en terrasse, qui est complètement plat, et puis au milieu, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on voit sur certains wagons de chemin de fer, qui permet l'aération de l'intérieur. Ça s'appelle, il n'y a pas de mot en français, il n'y a pas de mot en anglais, il n'y a pas de mot en italien, on est obligé de prendre le mot hébreu pour désigner cette galerie d'aération, ça s'appelle un tsohar. Alors, si on enlève le toit, on trouve à l'intérieur de la maquette les trois étages de l'arche. Donc, les deux étages, un étage au fond, enfin plus exactement un rez-de-chaussée, je dirais, et deux étages qui se présentent en galerie et qui sont séparés en stalles et dont l'accès aux différents étages se faisant par des plans inclinés. Alors c'est très joli, vous avez disposé des petits animaux, des toutes petites figurations d'animaux.
Doppio fondo, vedi.
Voilà, depuis le fond, on peut voir, donc, enfin au fond, on peut voir les grilles, des grilles qui donnent sur les réservoirs d'eau, et qui sont également, enfin, plus exactement, qui doivent être des grilles d'évacuation des déchets, celles-là. Hein, qui permettent d'évacuer le purin et des choses comme ça. Alors, on voit dans un coin de l'arche l'endroit où devaient vivre Noé et sa famille. C'est amusant, il y a une petite table avec les six tabourets autour de la table. On voit même un personnage qui est Noé ou un de ses fils probablement. Et le reste, on voit les animaux. Ce qui est intéressant également, c'est que cette arche est totalement fermée, à l'exception de la galerie d'aération, mais la galerie d'aération, étant donné sa disposition, ne permet pas d'avoir une vue sur l'extérieur. La seule vue sur l'extérieur, c'est une toute petite fenêtre qui se trouve sur, on peut dire, l'avant, en quelque sorte, de cette boîte de 156 mètres de long sur 26 mètres de large et 15 mètres de hauteur, et qui est la fenêtre par laquelle Noé a vu les deux cimes, et par laquelle il a envoyé en mission le corbeau et la colombe. Et quelle preuve avez-vous que cette fenêtre est la seule?
Ho diverse prove. Prima di tutto lo dice la Bibbia, perché la Bibbia dice che dopo che Noè ha visto la fine dei 40 giorni e 40 notti del diluvio, lui ha aperto la finestra. Genesi capitolo 8 versetto 6 dice che Noè ha aperto la finestra dell'arca che aveva fatta. A Venezia, al Duomo di Venezia, c'è un mosaico fatto costruire da Marco Polo. Marco Polo era passato.
Alors, monsieur
Marco Polo,
Palego me montre la photo de la fresque, de la mosaïque plus exactement, de San Marco, où on voit une représentation de l'arche qui a été...
Con una sola finestra.
Qui a été effectuée sur les conseils de Marco Polo. Marco Polo, ayant vu de ses yeux l'arche, il le raconte dans ses souvenirs, avec la fenêtre unique, et on voit d'ailleurs Noé qui est en train d'amener un oiseau qu'on n'identifie pas bien sur la photocopie que j'ai sous les yeux, vers la fenêtre, probablement pour l'envoyer vérifier si le déluge est terminé.
Alors, perché Marco Polo era passato sotto l'Ararat. Quando andava in Cina, la via della seta passava sotto l'Ararat.
Le chemin de la soie passait sous l'Ararat. Marco Polo y est passé et il a rapporté cette information que l'Arche de Noé n'avait qu'une fenêtre.
Alors, c'est ça, monsieur Palego, vous êtes sur Radio Courtoisie, on me demande de m'identifier encore une fois, et vous écoutez le livre journal de Serge de Becquet. Je reçois monsieur Palego, Angelo Palego, qui est ingénieur chimiste, et qui, je le reçois pas pour cette raison, je le reçois parce qu'il a fait de nombreuses recherches sur l'Arche de Noé, qu'il a retrouvé sur le mont Ararat. Et alors, il était en train de nous expliquer à l'instant que les preuves dont il dispose pour assurer que l'arche ne comptait qu'une fenêtre, ce qui peut paraître surprenant parce qu'on aurait pu imaginer que Noé ait voulu avoir une vue plus globale du spectacle du déluge, et alors qu'il n'y a qu'une toute petite fenêtre sur une des parties, sur une des faces de l'arche. Et alors Monsieur Palégo nous disait que c'est d'abord la Bible qui dit que dans le chapitre 8, c'est ça, verset 6, il explique que Noé a ouvert la fenêtre de l'arche, ce qui par définition exclut la possibilité qu'il y ait eu plusieurs fenêtres, et également que la route de la soie passant au pied du mont Ararat, Marco Polo, qui avait emprunté cette route de la soie lors de son voyage en Chine ou de son retour, avait vu l'arche et rentré à Venise, avait fait faire une fresque, ou plus exactement une mosaïque, qui montre donc cette arche avec une fenêtre unique. Et Monsieur Palégo me donne également une vue de la chapelle Sixtine, avec les fameuses fresques.
Michelangelo.
Avec, qui s'appelle le déluge universel, où on voit effectivement le dessin de l'arche de Noé, qui alors, de façon curieuse, bon, pas tellement curieuse d'ailleurs, mais enfin significative, ressemble très exactement à la maquette que vous avez faite et aux photographies que vous nous avez montrées de cette arche. Car, je le précise, vous avez fait de nombreuses photographies aériennes ou directes de l'arche qu'on voit dans la glace et dont on reconnaît parfaitement la forme. Et il n'y a vraiment pas d'autre explication. Enfin, on voit aucune explication rationnelle, logique, commerciale, technique à la présence à 4300 mètres de haut d'un objet de cette nature, sinon celle de l'arche. Alors Marco Polo n'est pas le seul à l'avoir vu, l'arche sur le mont Ararat. Vous citez beaucoup d'autres témoins.
Marco Polo, lui è passato alla base dell'Ararat. Lui non è salito su all'Ararat, però i locali, i valligiani, hanno fatto dei disegni dell'arca e hanno disegnato l'arca con una sola finestra. Michelangelo nel 1517 per la Cappella Sistina ha disegnato l'arca con una sola finestra. Perché? Perché fino al 1840, quando l'Ararat è esploso e l'arca si è spezzata e è scesa più in basso, i pellegrini salivano su all'arca, grattavano la pece dall'arca, perché l'arca è tutta quanta ricoperta di pece, di bitume, per farne gli amuleti. Questo ce lo dice Beroso nel terzo secolo avanti Cristo. Beroso, storico babilonese, scrive che i pellegrini salivano su all'Ararat, all'arca, per grattare la pece. Giuseppe Flavio, storico ebreo del primo secolo dopo Cristo, scrive nelle antichità giudaiche che la religione degli ebrei è quella vera, è quella giusta, perché sul monte Ararat c'è ancora l'arca di Noè. Epifanio di Salamina, IV secolo dopo Cristo, cristiano, scrive che la religione cristiana è quella vera, è quella giusta, perché sul monte Ararat si vede ancora l'arca di Noè. L'arca, fino al 1840, l'arca enorme, questa enorme costruzione, si vedeva da 20 chilometri di distanza, perché era posta a 4800 metri su un piano perfetto, grande come 16 campi di calcio.
Alors Marco Polo, lui, n'a pas fait l'ascension, mais il est passé en 1270 au pied de l'Ararat. Et les gens qui habitaient là lui ont fait un dessin et lui ont montré comment elle était faite. Et c'était une chose possible parce que cette énorme chose se voyait par tous les temps et par tout le monde à 20 km à la ronde, jusqu'à l'explosion de 1840. Les pèlerins, autrefois, dans l'Antiquité, faisaient l'ascension de l'Ararat pour aller gratter le bitume et la poix qui calfatait les flancs de l'arche pour en faire des allumettes. des amulettes. Et Bérose, au IIIe siècle, Bérose était un historien babylonien, raconte ça en détail. Flavius Joseph, dans les Antiquités juives, explique que la religion juive est la seule vraie parce que les juifs donnent une explication du déluge et que la preuve en est l'arche de Noé qui se trouve sur la Rarate. Épiphane de Salamine, au IVe siècle, explique que la religion catholique est la vraie parce qu'elle se rapporte à la révélation et spécialement à le récit du déluge. Et le déluge est prouvé par l'arche de Noé qui se trouve toujours à 4800 mètres de hauteur. À cette époque, effectivement, à 4800 mètres, l'arche se trouvait sur une espèce de grande plateforme ou grand plateau et qui était aussi vaste que 16 fois un terrain de football réglementaire et elle était très 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 visible et par tous les temps tout le monde pouvait la voir. Jusqu'en 1840, quand l'Ararat, qui est un volcan, il y a eu une explosion volcanique qui a cassé l'arche en 4 morceaux.
Alors décidément, on a l'impression que cette arche de Noé doit ennuyer beaucoup de monde, parce que en vous écoutant, je me disais que ça pourrait faire un site touristique extraordinaire, dont la région tirerait des avantages nombreux sur le plan commercial, mais également sur le plan politique. C'est certain que si les Turcs pouvaient arriver à attirer dans ce lieu des touristes pour voir l'arche et pour peut-être visiter en tout cas les abords pour la regarder, ça jouerait un rôle politique important. Ça apporterait de l'animation et de la présence dans ces lieux, et également ça faciliterait probablement les tentatives de la Turquie pour entrer dans l'Europe. Or, même ça, à l'évidence, ne fait pas réfléchir, et même ça ne parvient pas à vaincre le blocage qui existe, le blocage politique, le blocage scientifique également, autour de cette découverte extraordinaire que vous avez faite. Est-ce que vous êtes quand même arrivé à obtenir un soutien, ou un soutien ne serait-ce que moral, de la part d'autres chercheurs?
Da quest'anno l'ambasciata italiana ad Ankara si è cominciata ad interessare in maniera seria delle mie ricerche. Quindi penso nel prossimo futuro di avere speranze che il governo turco si interessi seriamente. Fino ad oggi hanno sempre pensato che l'arca era un mito, era una favola, era una leggenda, per cui nessuno ha preso in seria considerazione. Ora il governo italiano, la Farnesina, in modo particolare l'ambasciata italiana in Turchia, ha compreso seriamente che ho trovato l'arca di Noè, anche perché io li ho minacciati che se qualcuno arriva prima di me a mostrare le foto dell'arca di Noè, io denuncio il governo italiano per mancanza di appoggio nei miei confronti, quindi li porto in tribunale. Quando ho fatto questa minaccia, l'ambasciata italiana ad Ankara si è attivata seriamente, quindi c'è speranza che prossimamente le cose migliorino.
Depuis cette année, l'ambassade italienne à Ankara a pris en considération mes recherches. Et la Farnesina, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères italienne, s'est investi dans cette chose parce que j'ai menacé le gouvernement italien de leur faire un procès si quelqu'un trouvait avant moi l'arche de Noé. Parce que comme j'avais déposé toutes ces choses-là, c'est connu, et si quelqu'un d'autre le fait avant moi, je leur ferai procès. Parce que jusqu'à présent, on avait considéré que l'arche de Noé était une fable, une légende, et personne ne prenait ça au sérieux. Mais à partir de cette menace judiciaire, les choses peut-être vont changer. D'ailleurs, ça semble être le cas, puisque l'ambassade italienne à Ankara appuie mes recherches.
Parce qu'en fait, il semble que les moyens dont vous avez besoin sont assez modestes. Il vous faudrait, l'idéal, ce serait d'avoir un moyen d'accéder à la gorge d'Aora pour pouvoir entrer dans l'arche, et puis de faire des prélèvements à la fois par carottage de bois et de, je suppose, du site environnant. Et donc il vous faut une petite escorte militaire, un appui technique. Ça représente pas des frais considérables, puisque vous-même, depuis maintenant plusieurs années, vous assumez avec vos propres deniers les recherches que vous avez faites et qui ont donné des résultats extraordinaires. Donc on peut imaginer qu'avec assez peu d'argent, finalement, on arriverait à conclure.
Effettivamente, se il governo turco si attiva e l'università di Erzurum, io sono in contatto con l'università di Erzurum che ha la responsabilità delle ricerche archeologiche sull'Ararat, se si attivano in 2 giorni una squadra di soldati, in 2 giorni può far vedere l'arca di Noè al mondo, perché basta una piccola carica di dinamite, togliere via il ghiaccio che è di fronte all'arca e l'arca di Noè è visibile al mondo, ma è necessario che il governo turco si attivi.
Effectivement, c'est l'université turque d'Erzurum qui est chargée des recherches dans cette zone archéologique. Et il suffirait de très peu de choses si le gouvernement turc voulait mettre à la disposition un petit détachement militaire. En 2 jours, avec une petite charge de dynamite, on peut faire sauter la glace qui recouvre l'arche, et en 2 jours, on peut montrer au monde entier ce que c'est que l'arche de Noé.
C'est quand même extraordinaire de penser qu'on a un monument, on peut appeler ça un monument aussi essentiel à l'histoire des hommes, et que pour des raisons de prudence, probablement de prudence politique, il est caché, il est enfermé sous une langue de glace. C'est symboliquement, je trouve ça très très fort. Quels sont vos projets, Monsieur Palego? Avez-vous des projets de nouvelles expéditions?
Ho in progetto altre spedizioni, naturalmente non ora perché sulla montagna ha cominciato a nevicare, l'arca è a 4300 metri, quindi per quest'anno non si può più vedere niente. Il prossimo anno, a partire dalla fine di giugno, primi di luglio, è possibile, se c'è un terremoto, il terremoto stacca il ghiaccio che è davanti e l'arca viene allo scoperto. Un mio amico, pastore curdo, ho dato a lui tutta l'attrezzatura, scarponi, giacca a vento, ogni cosa. Lui vive sull'Ararat, ha i greggi, ha gli animali, li porta a bere durante l'estate al lago di Kop, proprio di fronte all'arca, gli ho dato macchina fotografica, ogni cosa. Quando l'arca è allo scoperto, lui scatta fotografie e mi invia a me fotografie. Quindi, appena l'arca viene allo scoperto, è possibile fotografarla. Se il governo turco si attiva, basta far saltar via il ghiaccio oppure con la trivella carotare e possiamo far vedere l'arca di Noè al mondo.
Pour cette année, c'est exclu de remonter sur l'Ararat parce que déjà il a commencé à neiger. Mais à partir de juin, juillet, si jamais il y a un tremblement de terre, ça fait décoller la glace et s'il fait bien chaud, on voit les choses. De toute façon, j'ai sur place un ami à moi qui est un berger kurde à qui j'ai donné un équipement de montagne complet, un appareil de photo. Et pour moi, quand il va faire paître ses animaux, et il prend des photos. Et dès que l'arche est dégagée, je peux arriver et si le gouvernement turc s'active, on peut très 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 facilement faire voir l'intérieur de l'arche.
Avez-vous publié un ouvrage, un livre, une cassette vidéo sur vos travaux?
Si, ho pubblicato 2 libri. Il primo libro nel 1990, ho camminato sopra l'arca di Noè, j'ai marché sur l'arche de Noè, è stato tradotto in 5 lingue, spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, e nel 1999 ho pubblicato un altro libro, Come ho trovato l'arca di Noè. Ma dalle mie pubblicazioni non voglio neppure una lira. Io ho detto all'editore, non voglio sapere niente della parte economica. Per me l'arca è poesia, per me l'arca è preghiera. Non voglio avere niente a che fare con denaro per l'arca.
Oui, j'ai écrit deux livres. Le premier livre en 1990 qui s'appelle « J'ai marché sur l'arche ». Il a été traduit en cinq langues, français, anglais, portugais, espagnol
et allemand.
Et allemand. Et en 1999, j'ai écrit un autre livre, « Comment j'ai trouvé l'arche de Noé ». Mon éditeur donc l'a publié, mais des droits d'auteur, de l'argent, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas une lire de tout ça. Pour moi, l'arche, c'est la poésie et c'est aussi une prière.
Mais ça vous permettrait quand même de financer une partie de vos recherches, ces travaux d'écriture.
Per vedere l'arca o per far vedere l'arca al mondo non è necessario il denaro. Dio fa vedere l'arca a chi vuole lui e quando vuole lui. Quindi non è questione di denaro, non è questione di grandi ricerche o di grandi attrezzature, è soltanto volontà di Dio.
Donc Dieu seul montrera l'arche à qui il voudra, quand il le voudra.
Yes.
Il n'y a pas besoin de grandes recherches ou de grandes dépenses pour ça, c'est la volonté de Dieu. Vous avez cependant, probablement alors sous l'inspiration du Saint-Esprit, réalisé une cassette.
Sì,
videocassette.
Videocassette, ho fatto una videocassetta. Questa...
Même, ça, je sais que ça vous ennuie, mais je vais quand même vous demander où on peut se la procurer, l'adresse à laquelle on peut la trouver.
Questa è la pubblicazione in inglese.
Alors ça, c'est une petite brochure qui s'appelle « Comment j'ai trouvé l'arche de Noé ». C'est en anglais. Elle existe en français?
Non, solo inglese.
Le Séché va faire.
Alors, le Séché va en faire une version en français. C'est une petite brochure très très bien faite, qui fait 28 pages, et en couleur, avec des photographies tout à fait étonnantes de l'arche et du site, et également des... représentation iconographique de l'arche dans l'iconographie chrétienne, des cartes, et c'est très très complet, c'est très facile à lire, même en anglais, parce que le texte est très court, et ce qui est intéressant, bien sûr, ce sont les photos. Mais je crois qu'il y a une vidéocassette également.
Vidéocassette, pure.
Alors, je vais vous demander, voilà, on peut...
Chez Sacchi Editore et à ce numéro de téléphone.
Voilà, alors Sacchi Editore, c'est en Italie. Le téléphone de Sacchi, c'est 0039 03 31 57 76 28. 0039 03 31 57 76 28. Voilà, monsieur Palego, merci beaucoup. Je regrette que vous soyez venu trop tard pour qu'on puisse conseiller à nos auditeurs d'aller à cette conférence du Séché. Je leur conseille de rester en contact, enfin d'entrer en contact avec le Séché, boîte postale 51 59 731 Saint-Avant-Cédex, pour avoir la liste de leur prochaine conférence. Et je suis sûr que si les demandes sont nombreuses, monsieur Palego acceptera de revenir en France pour nous donner de nouveau une conférence sur ce sujet tout à fait passionnant.
Thank you. Grazie. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Palego.
Grazie.
Merci, madame de Quintet, d'avoir accepté de nous faire cette traduction.
Je vous prie, c'était avec grand plaisir.
Et puis, j'espère qu'on verra bientôt la concrétisation de tous vos efforts.
Grazie. Merci beaucoup.